نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع كتاب الموسوعة الفقهية للشيخ العويشة. وكنا آخر ما توقفنا عنده أن تكلمنا عن حكم الغسل. فمرحبا encore une fois avec le livre de الموسوعة الفقهية. On s'était arrêté exactement, on avait parlé du ghusl, comment on faisait le ghusl, etc. et ses règles. Je voudrais réviser très vite ce que j'ai dit, seulement les titres. Ce que j'ai dit, les titres, on avait dit que il n'était pas permis de d'uriner dans un endroit où on allait se laver si l'eau était stagnante. Si l'eau est stagnante, on ne peut pas uriner dans une eau où yani, l'eau ne marche pas. On avait dit pourquoi. Ce n'était pas à cause de la najasa, parce que le prophète a dit que l'eau ne devient jamais souillée, mais c'est à cause du wuswas, comme a dit Cheikh Islam, le wuswas du shaitan. On avait montré que deuxièmement qu'il était possible de se laver nu dans un endroit où personne ne nous voit, dans un endroit comme une salle de bain en ferme à clé, personne ne voit ce que je fais à l'intérieur. Quand je suis seul, il m'est permis de me dévêtir. Troisièmement, on avait parlé du hadith où il est dit que Moussa alayhi salam, que Fatima radiallahu ta'ala anha avait pris un drap et caché le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait sa douche. Car autrefois il n'y avait pas de salle de bain, ou là, il n'y avait pas des choses, des endroits spéciaux pour faire ceci. Donc elle lui donnait son dos et prenait un drap et le mettait comme ça en face d'elle, afin que lorsque quelqu'un passe ne peut pas voir ce qu'il y a derrière le drap. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait derrière le drap. هل يجزي غسل عن غسل إذا كان واجبين؟ Si une femme par exemple est en état de janaba, par exemple elle doit faire le lavage majeur, le ghusl, ensuite en même temps elle a eu ses menstrues, est-ce que lorsqu'elle va se purifier elle va faire deux ghusl ou bien un seul? J'ai dit que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit qu'elle peut faire un seul. Et là j'ai dit les dalils. Cheikh Al-Albani a dit qu'il faut faire deux ghusl. Donc pour sortir du khilaf, de l'irtilaf, si on peut faire deux, je dis que maintenant c'est très facile, c'est pas comme autrefois. Quand elle commence par les monstrues, quand elle termine, elle jette, elle laisse l'eau tomber sur elle jusqu'à ses pieds, elle dit bismillah et elle dit dans son cœur que c'est pour la janaba. Et si toutefois elle prend inshallah ta'ala de ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, inshallah ta'ala, Allah ta'ala, que c'est permis. J'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des fois un seul ghusl. Il se lavait seulement une fois après avoir fait plusieurs rapports avec ses femmes. Il se lavait seulement une fois. Si quelqu'un fait 2-3 rapports, il n'est pas obligé d'aller à chaque fois se laver. Il attend la dernière fois, il va se laver avant de faire la prière. Et j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois faisait avec chaque femme le ghusl. Avec chaque femme, chaque épouse, quand il faisait le rapport, il allait faire le ghusl, le lavage majeur. Ensuite, il allait chez la deuxième femme, la deuxième épouse, la même chose. Ensuite, il fait le lavage majeur. La troisième, ensuite, le lavage majeur, et ainsi de suite. Donc, quand on lui a dit pourquoi tu ne laisses pas un seul, il a dit hada azka. Comme ça, c'est plus pur. Wa atyab, wa athar. C'est plus pur, c'est plus sain, c'est plus propre, etc. Donc, les deux sont valables. Ou bien après chaque rapport, ou bien quand il termine avec ses femmes. J'avais dit ensuite que جواز نوم الجنوب واستحباب الوضوء له. Et de préférence que quelqu'un qui doit se laver le lavage majeur, de préférence quelqu'un qui a une janaba, de préférence il ne dort pas avant de faire au moins le taïmoum. Ça veut dire il commence d'abord, s'il peut, par le lavage majeur. S'il peut pas, c'est pas interdit, il le laisse jusqu'au matin, c'est pas interdit, juste avant la prière du Fajr, il le fait, à condition que quoi? De faire au moins les ablutions. Si on ne peut pas les ablutions, au moins le taïmoum, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, où j'ai cité la fois passée, Kassel, il a senti un peu de tab, un peu de fatigue, un peu de paresse, il a frappé ses mains contre le mur, il a fait le taïmoum, et il s'est endormi après être en état de janaba. Donc, la meilleure des choses, c'est le rousl, si on peut pas, c'est le wudu, si on peut pas, c'est le taïmoum. Mais on ne dort pas en état de janaba. On ne dort pas en état de janaba, car les anges ne t'approcheront pas cette nuit-là. Et quelqu'un qui, les anges ne vont pas l'approcher, donc c'est le shaitan qui va l'approcher. Il va passer la nuit avec lui, en train de lui faire des songes, etc., des cauchemars, etc. Donc, comme j'ai dit, ou bien le rousl, ou bien le taïmoum, ou bien le wudu, ou bien le taïmoum. Ensuite, j'ai dit qu'il était permis à l'homme de se laver avec sa femme d'une seule, par exemple, bassine, d'un seul récipient. Celui-là, il prend ce côté, elle prend de l'autre côté, ils sont debout, ou là, ci, ou là, et la bassine est entre eux. Lui, il rentre sa main, elle rentre sa main, et ils peuvent faire cela. Ensuite, j'ai dit que ce n'était pas interdit aussi, si une femme, par exemple, après s'être lavée, elle laisse un peu d'eau dans une bassine, après s'être lavée de la janaba ou des menstrues, elle laisse un peu d'eau, il vient l'homme ou là, son fils ou là, avec cette même eau, il va faire quoi? Il va faire des ablutions, ou bien il va faire les grandes ablutions. Car l'eau ne devient jamais souillée, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les menstrues de la femme sont dans un autre côté, ils ne sont pas dans ses mains. Parce qu'elle prend avec ses mains, elle fait sortir de l'eau de la bassine, elle jette sur sa tête. Donc, c'est pas ses mains qui sont souillées. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on commence le taïmoum. Inshallah ta'ala, dans ce dars, on va parler du taïmoum. Le taïmoum, inshallah ta'ala, tout le monde sait ce que c'est le taïmoum. Le taïmoum, inshallah ta'ala, tout le monde sait ce que c'est. C'est quand on n'a pas d'eau, ou là on est malade, etc. On prend avec le caillou, là on met ses mains contre la terre, on essuie le visage et les mains. On va essayer de parler avec un peu de détails, inshallah ta'ala. Avant de commencer, si je vois quelque chose, frère, une seconde. Naam, je disais que le taïmoum, les ablutions sèches. Naam, les ablutions sèches. Le taïmoum existe dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, l'Azza wa Jalla a dit إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء بتخفضوا فتيمموا سعيدا طيبا. Et bien sûr, il y a des ahadith. Parmi les ahadith, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت خمسا لم يعطهن خمسا عفوا لم يعطهن أحد قبلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on m'a accordé cinq choses, aucun des prophètes, ou la cinq bienfaits, aucun des prophètes ne les a eu avant moi. Parmi ces cinq choses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et on m'a fait de la terre une mosquée, مَسْجِدًا. C'est plus précisément, ce n'est pas seulement une mosquée, mais c'est yani, toute chose, tout endroit où tu poses ta tête, tu fais une prosternation, ça s'appelle en arabe masjid. Ça s'appelle en arabe masjid. Si dans n'importe quel endroit tu te prosternes, tu dis, tu fais la prière, tu dis celui-là c'est masjidé. C'est le lieu où j'ai fait la prière. Naam, c'est le lieu où on fait la prière. Il a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait de la terre. Il y a une mosquée, un endroit où je fais lieu de prière, et un moyen de purification. Wa tawaran. Fa'ayyuma rajulin min ummati adraktu as-salat falyusalli. Yani quiconque de ma nation, yani l'heure de la salat rentre et il n'a pas d'eau, yani il doit faire la prière, il ne va pas dire laisse, je vais la faire demain ou l'après-demain. Maintenant, on va parler un peu des détails. Awalan. Le taïmoum, c'est une des choses que Allah Azza wa Jal n'a donné qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je viens de dire maintenant, il m'a donné 5 choses, je les ai citées les 5 choses la fois passée. Il m'a dit 5 choses, personne ne les a eues avant moi, sauf moi. Sabab Mashraïati, comment a commencé le tayammum? Auparavant, il n'y avait pas le tayammum. Ensuite, comment il a commencé? Comment Allah Azza wa Jal l'a donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous l'a donné à nous, sa nation, la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Aisha radiallahu ta'ala anha, Aisha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait emprunté une chaîne de sa sœur Esma. Bien sûr, prêter des bijoux, emprunter des bijoux, c'est très connu chez les femmes depuis le prophète ou avant. Qu'une femme demande à une femme de lui prêter sa chaîne ou n'importe quoi pour aller au mariage, etc. Donc c'était très connu ça chez les Arabes, un collier. Voilà. Elle lui a demandé à Esma de lui prêter un collier. Elle a demandé à sa sœur de lui prêter un collier. Fahalakat. Ensuite, le collier s'est perdu. Ils étaient en voyage, bien sûr, Le collier s'est perdu. Elle a bien cherché, ils n'ont pas trouvé. Fada'at al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam rajulan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un chercher, il l'a trouvé. Il a trouvé le collier. Fa'adraktum salat. Mais, puisqu'ils se sont retardés à cause du collier, l'heure de la prière était venue. Dans un autre hadith véridique, il est dit qu'ils ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Ensuite, quand ils ont fait lever le chameau pour monter dessus et partir, le collier se trouvait sous le chameau, subhanallah. Quand il est sous le chameau est assis ou là, à plat ventre. Comment quelqu'un va se dire il est sous le chameau? C'est pour ça qu'ils sont restés beaucoup, ils ne l'ont pas trouvé. Ensuite, quand ils ont décidé de partir, ils ont fait lever le chameau, ils l'ont trouvé sous le chameau. Ensuite, le temps, l'heure de la prière est venue et ils n'avaient pas d'eau. Face à l'eau, ils ont fait la prière sans eau. Sachez que vous avez dit qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, on a été retardé à cause du collier de Aïcha qui est tombé. Ensuite, on n'a pas eu d'eau. Ensuite, on n'a pas su qu'est-ce qu'on fait. On a fait la prière. C'est dans ce contexte que Allah Azza wa Jal a fait descendre Ayat Taymoum, a fait descendre un verset où il est dit, si vous ne trouvez pas d'eau, si ceci, cela, faites le Taymoum. Donc le Taymoum n'était jamais connu auparavant, avant l'islam, ni avant l'histoire du collier. Avant l'histoire du collier, il n'y avait pas de Taymoum. Qala Usayd ibn Khudayr, ensuite il y a un compagnon radiallahu ta'ala anhu qui a dit à Aïcha, qu'est-ce qu'il lui a dit? Jazakillahu khayran. Yani, je te remercie. Fawallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'ala Allahu dhalika laki wa lil muslimina fihi khayr. Il lui a dit barakallahu fik Aisha, toi barakallahu fik. Jamais il t'arrive quelque chose que tu détestes, jamais il t'arrive un malheur sans que Allah Azza wa Jal ne fasse pour toi et pour nous un grand bien. Naam. C'était un malheur perdre un collier, en or, etc. Mais le grand bien, c'est quoi? C'est le taïmoum qui est descendu à cause de la perte du collier. Subhanallah al-Azim. Dès qu'Aïcha radiallahu ta'ala a un problème, un malheur, l'Azul Daïmen, tout le temps, il lui donne quelque chose de meilleur. Premièrement, ils ont trouvé le collier. Et deuxièmement, l'Azul a fait descendre le taïmoum. S'il n'y avait pas maintenant le taïmoum, ça aurait été très très difficile de faire la prière pour le malade, pour celui qui a froid, pour celui qui voyage, etc., etc. Et bien sûr, il voulait dire aussi, quand on a dit que Aïcha fait la zina, c'est pour ça que ce sahabi a dit il n'y a pas un malheur sans que Allah Azza wa Jal ne te donne un grand bonheur après lui pour toi et pour nous. Car la même chose lorsqu'ils ont dit les khoubata, les hypocrites, les kuffars, ils ont dit qu'elle a fait la zina, Allah Azza wa Jal a fait descendre beaucoup de versets pour montrer qui sont les hypocrites, ensuite pour montrer qu'elle était bari'a, qu'elle était innocente, et c'était un Coran, d'autres, beaucoup de versets qui sont descendus à cause d'elle, radiallahu ta'ala anha. Donc, remarquez ce que lui a dit Usayd ibn Khudayr, radiallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, jazakillahu khayra. Fa wallahi ma nazala biki amrin takrahinah illa ja'ala Allahu dhalika laki wa lil muslima fi khayr. en dos, il la remercie et il reconnaît, lui dit, Allah, dès qu'il t'arrive un malheur, Allah Azza wa Jalla est toujours avec toi, il nous descend du bonheur, etc. Non pas comme les chiites, non pas comme les chiites qui l'insultent, qui disent fornicatrice, fornicatrice, va voir tes soeurs et tes femmes, qu'est-ce qu'elles font. Pour un dollar, elles font des choses que je vais pas citer ici. Et elles se disent, on s'est mariées. Elles se marient pour un quart d'heure, elles se marient pour une demi-heure. Les chiites, elles se marient pour un quart d'heure, et tu dis, c'est halal. Alors que c'est le hadith qui dit, subhanallah al-adhim, yu'minuna bi-barik, ils croient en certaines choses du Coran et de la Sunna, et ils sont kuffar en certaines choses. Et le hadith qui dit que ce zawaj est interdit, ce zawaj était permis auparavant. Auparavant, au début de l'islam, vous allez au djihad, il n'y avait pas de femme, le prophète Hassan leur a permis. Tu te maries avec une femme, ensuite tu la divorces une semaine, comme tu veux. Ensuite, c'était interdit, une grande interdiction. Qui a interdit ça? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le hadith, qui a rapporté le hadith que c'était interdit? Subhanallah al-Adim, vous savez qui? Ali ibn Abi Talib. Le hadith, Ali ibn Abi Talib, il dit que ce zawaj est interdit, il restera interdit jusqu'à la fin du monde. Alors, vous les chiites, vous aimez Ali. Pour certains d'entre vous, c'est votre ilah, c'est votre dieu pour certains. Donc, comment vous lisez ici le hadith de Ali qui est dans le Sahih al-Bukhari? Pourquoi vous ne prenez pas ce hadith? Alors que Ali, pour vous, il est mieux que les quatre califats, il est mieux que le prophète, il est mieux. Alors pourquoi vous prenez pas ici le hadith de Ali radiallahu ta'ala anhu? Al-Muhim, Ali radiallahu ta'ala anhu se désengage de cela, se désengage et se désengagera le jour du jugement dernier et dira Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là sont des kuffars, éloigne-les de moi. Je ne leur ai jamais dit de m'adorer ni de dire je suis mieux que Abu Bakr et Omar. Jamais je n'ai dit cela. D'ailleurs, c'est lui, je me rappelle maintenant, c'est lui aussi, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit dans Sahih al-Bukhari, voilà, le hadith, celui-là aussi, ils ne le prennent pas, il a dit, quiconque dira que je suis mieux que Abu Bakr et Omar, je le fouetterai, le firial kadib, c'est-à-dire, je le fouetterai 20, 30, 40, 60 coups, foué, jusqu'à 80. Pourquoi? Parce qu'il a menti sur moi. C'est lui qui dit ça. Quiconque dit que je suis mieux que Ali, pardon, je suis mieux que Abu Bakr Omar, je vais le fouetter. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. Donc c'était la première fois que le Taymoum était descendu. Walhamdulillah, c'est la cause de qui? La cause de Aisha radiallahu ta'ala anha, notre mère, la pure, la saine, la pieuse, la meilleure, l'une des meilleures femmes du monde. Aisha radiallahu ta'ala anha. Certains vous savez ce qu'ils font ici, la hawla wa la quwwata illa billah. Le jour de Ashura, ils amènent une chèvre. Noir comme ça, une petite chèvre, et il commence à quoi? Il commence à pleurer, niyaha, et ils vont vers la chèvre comme ça, groupe par groupe, et lui enlèvent les poils de la chèvre, lui enlèvent du corps comme ça, tout en étant vivante. La chèvre, elle est vivante là, debout, et on lui enlève les poils, ou là, comment ça s'appelle, les cheveux, ou là, on lui enlève, et elle est en train de crier, le sang qui coule, jusqu'à ce qu'elle meure. Pourquoi vous faites ça? On dit parce que c'est Aïcha, cette chèvre. C'est l'image de Aïcha, à cause qu'elle a fait la zina. Maintenant, on doit, yani, faire la hawla wa la quwwata illa billah. Faire un animal qui est vivant, lui enlever ses cheveux ou ses poils, ou faire venir, par exemple, une poule vivante et lui enlever les plumes, ils disent, il n'y a pas plus une chose qui fait plus mal que celle-là. C'est pour ça que certains ulama ont dit, lorsque Sulayman alayhi salam n'a pas trouvé le hudhud, l'oiseau هذا qui l'a dit maliya la ara al hudhud am kana min ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu. Il a dit la u'adhibannahu 'adaban shadidan, je vais lui faire un grand supplice ou je vais l'égorger. Certains mufassirin ont dit lui faire un grand supplice, c'est enlever les plumes à cet oiseau vivant. Et nous on dit inshallah ta'ala, Sulayman c'est pas le genre qui va faire cette chose. Sulayman c'est pas le genre qui va faire venir un animal vivant et lui enlever ses plumes, un oiseau vivant, et lui enlever ses plumes. Mais ça a un autre sens que nous, on ne sait pas. Wallahu ta'ala alam. Comment qu'on fait le taymoum? Awalan, avant tout, il faut dans le cœur avoir l'intention. Il faut qu'on ait l'intention dans le cœur qu'on va faire le taymoum. Et l'intention, bien sûr, elle est toujours dans le cœur. C'est une grande bid'a, la huppe, naam, la huppe, le hudhud, il s'appelle la huppe. Celui-là, il connaissait l'eau qui était sous la terre. le hudhud, qu'il y a de l'eau sous la terre. C'est pour ça que lorsqu'il frappe avec son bec sur la terre, ça veut dire qu'il a trouvé l'eau. Al-Muhim, le tayammum, je dis même plus, le wudu, la salat, les trois hadou, quand on veut les faire, je veux faire le tayammum, ou je veux faire les ablutions, ou je veux faire le ghusl, ou je veux faire la salat, il est interdit en islam de prononcer l'intention. De dire comme ça, hein, tu bouges tes lèvres, tu dis, je veux faire le tayammum. Ou là, oh Allah, accepte de moi, je vais faire la prière du dhuhr, 4 rak'at, etc. Ou bien, avant le wudu, tu vas dire, Allah accepte de moi, je vais faire le wudu, etc. Tout cela, disent les ulama, ce sont la bid'a, c'est de l'innovation. Tu vas à la salat, tu te mets en face de la qibla, tu lèves tes mains, tu dis Allahu Akbar. Car le fait, tu as été assis sur ta chaise, ou là tu as été en train d'écrire, et tu as dit je me lève, dans ton cœur, tu as dit je vais me lever pour faire la prière, le fait que tu t'es levé, ça veut dire que tu veux la prière. Le fait, là tu t'es levé, tu as laissé ton cahier ou la télévision, tu t'es levé, ça veut dire que tu as eu l'intention dans ton cœur de faire la prière. Le fait que tu entendes le muezzin, celui qui appelle à la prière, le fait que tu l'entendes, et tu dis dans ton cœur, donc je vais faire la prière, le fait que tu ailles au robinet, tu l'ouvres, ça veut dire que, khalas, des ablutions, tu as fait l'intention des ablutions. Sinon, pourquoi ai-je ouvert le robinet? Et je ne l'ai ouvert que parce que j'ai entendu l'appel à la prière, ou bien j'ai vu l'heure, je me suis dit c'est l'heure de la prière. Donc, tes intentions sont connues au niveau du cœur, et Allah Azza wa Jalla connaît tes intentions. C'est pour ça que quand toi tu entends l'appel à la prière, tu vas à la mosquée. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu lui dis où va cette personne, il te dit elle va à la mosquée. Je la vois se diriger vers la mosquée. Donc, comment une personne étrangère sait que tu vas aller à la mosquée faire la prière? Et Allah Azza wa Jalla ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur jusqu'à ce que tu dises dans ton cœur que je vais faire la prière de As, et avant Allah Akbar tu dis cette prière c'est la prière de As, accepte oh Allah. Tout ça c'est des bidas et des innovations que le musulman doit s'en éloigner, car il n'y a pas un péché plus grave que l'innovation, comme vous devez le connaître. La petite innovation apporte la grande jusqu'à ce que la personne meure, Allah Azza wa Jalla, en colère d'elle. Donc premièrement j'avais dit niya. Deuxièmement, bismillah. Avant de commencer le tayammum, on dit bismillah. Ce bismillah ici, il y a une divergence entre les ulama. Certains disent comme dans le wudu on dit bismillah, et le tayammum c'est le badl du wudu. Le tayammum c'est le remplacement, c'est celui qui est le remplaçant, c'est le remplaçant de l'eau. Il n'y a pas d'eau, ou là je suis malade, etc., je vais au tayammum. Donc le tayammum a remplacé l'eau, a remplacé les ablutions. Et avant les ablutions, je dis toujours bismillah. Vous savez qu'il n'y a pas d'ablution sans bismillah. Et c'est pas bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est bismillah. Donc ici le tayammum a remplacé, donc je dis bismillah au tayammum. Certains ont dit comme ça, d'autres ont dit dans les ibadettes, dans les adorations, il n'y a pas de qiyas. On ne donne pas des ressemblances, etc. D'autres ont dit, tu fais directement sans dire bismillah. Tu fais directement le tayammum sans dire bismillah. Donc les deux, inshallah ta'ala, sont valables. Si tu dis bismillah ou si tu dis pas inshallah ta'ala, c'est valable. Ici dans le livre, il a dit, on dit. Ici dans ce livre, on dit bismillah. Moi seulement j'ai dit que il y avait une divergence. Inshallah, si tu dis, peut-être c'est mieux pour sortir les divergences. Troisièmement, darbul kaffayn bisa'id al-tahir, thumma yunfakhu fihima aw yunfiduhuma li takhfif turab. Il a dit ensuite, troisièmement, tu frappes avec tes deux mains, tu frappes la chose que tu vas frapper. La chose qu'on va frapper, c'est quoi? Allez, on va la dire maintenant, inshallah ta'ala, avec détail. Donc, disons, en général, tu frappes la terre. Il y a de la terre, tu frappes la terre avec tes deux mains, tu poses tes deux mains ouvertes, bien ouvertes sur la terre, et tu dis bismillah. Ensuite, tu regardes comme ça tes deux mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu souffles sur ses deux mains. Pourquoi? Des fois, il y a des cailloux, il y a peut-être des épines dans ta main. On ne sait jamais ce que tu as relevé. Quand tu as relevé tes deux mains, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Des fois, il y a des petits cailloux, très petits, très petits. Tu vas mettre dans ton visage, tu vas avoir mal, Donc, c'est pour ça qu'on dit, tu souffles comme ça. Ou bien, si tu ne veux pas souffler comme ça, les ulama disent, tu bouges tes mains. comme ça, yani, comme lorsqu'on a de l'eau dans les mains, on commence à les bouger comme ça à droite, je sais pas comment on dit le verbe là, pour que l'eau aille des mains. Et c'est la même chose, tu fais comme ça avec des mains, yani, tu les fais trembler pour que la chose qu'il y a dans tes mains tombe. Ça, toutefois, si tu as fait le taïmoum avec le torab, si tu as fait le taïmoum, tu secoues tes mains, naam. Ça, toutefois, si tu as fait le taïmoum avec quoi? Avec la terre. Mais on va voir qu'il est possible que tu fasses le taïmoum avec une chose qui ne contient pas de terre ni de poussière, etc. Dans ce cas, c'est pas la peine de secouer les mains ni de souffler dessus. Ensuite, tu lèves tes mains, tu vas directement au visage. Ensuite, tu descends, dépoussiéré. Ensuite, tu descends aux mains. Après avoir fait le visage, tu descends aux mains jusqu'au poignet. On fait les mains jusqu'au poignet et ce n'est pas la peine de se frotter les doigts. C'est pas la peine de mettre entre les doigts ou de se frotter les doigts ou de joindre les doigts. Tu fais seulement comme ça par-dessous, ensuite jusqu'au poignet, une seule fois. Ça veut dire, quand tu as frappé la terre, tu vas au visage, tu mets le visage, tu essuies le visage, tu essuies les mains, une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire une seule fois? C'est-à-dire, on a frappé la terre une seule fois. On n'a pas frappé une fois pour le visage, une fois pour les mains. Avec la seule frappe, on a fait le visage et on a fait la main. Je veux dire les deux mains. Ensuite, c'est comme ça qu'on fait le taïmoum. Donc c'est comme ça qu'on fait le taïmoum. Tout ce qui on dit, bien sûr, on fait deux fois, on frappe deux fois, une fois pour le visage, une fois pour les mains. Ce sont des hadiths qui sont faibles. Ou bien ceux qui ont dit, on fait les mains jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude. Ça, c'est faible. Et plus faible encore, ceux qui ont dit, on fait les mains jusqu'aux aisselles. Certains ont dit, on fait le taïmoum jusqu'aux aisselles. Ça, c'est encore très faible. Et la bid'a que je n'ai jamais vue, mais il y a certains gens qui la font mal, qui ne connaissent rien dans le dina. Il croit que le taïmoum c'est à la place de l'eau. Donc, on va faire le taïmoum dans tous les endroits où on met de l'eau. On va faire le taïmoum sur le visage, les mains, les cheveux, les oreilles. Ensuite, il descend, il fait le taïmoum au pied. Bien sûr, celui-là, on ne dit pas directement quelqu'un qui est un innovateur. On lui dit tu es un jahl. D'où tu as fait venir cela? Il n'y a ça ni dans le Coran, ni dans aucun hadith. S'il dit non, moi je fais, je persiste, on lui dit donc tu es un innovateur. Khalas. Tu es sorti du djahl, tu es rentré dans l'innovation. Parce que tu sais et tu veux pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelles sont les choses qui enlèvent le taïmoum? Maintenant, j'ai fait le taïmoum, quelles sont les choses qui vont m'annuler ce taïmoum? Awalan, yanqudu taïmouma kullu ma yanqudu l'wudu li'annahu yaqumu maqama. Règle générale, toute chose qui annule le wudu annule le taïmoum. Toute chose, il n'y a pas d'exception. Par exemple, j'ai fait les ablutions. Ensuite, je vais uriner, je n'ai plus d'ablutions, je les ai annulées. La même chose, j'ai fait le taïmoum, j'ai uriné, je n'ai plus de taïmoum. J'ai fait les ablutions, j'ai des gaz qui sont sortis, j'ai plus de taïmoum. J'ai plus d'ablutions, pardon. Même chose, taïmoum, j'ai fait le taïmoum, j'ai des gaz qui sont sortis, j'ai plus de taïmoum. Et la même chose, j'ai fait le taïmoum. Ensuite, par exemple, tu fais n'importe quoi, une chose qui annule le wudu, c'est la même chose. Je dois dire mon taïmoum a été annulé. Donc il n'y a pas de différence. Tout ce qui annule les ablutions annule le taïmoum. Et encore, il y a quelque chose en plus, qui annule le taïmoum. Vous savez quoi? C'est lorsque on fait le taïmoum à cause qu'on n'avait pas d'eau, ensuite, voilà, l'eau est venue. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire mon taïmoum est nul. C'est pas la peine de dire je vais continuer la prière avec le taïmoum. Pourquoi? Parce que l'eau est venue. Moi j'ai fait le taïmoum car il n'y avait pas d'eau. Sauf pour celui qui a fait le taïmoum, non pas à cause de il n'y avait pas d'eau, mais à cause d'une maladie. Celui-là il n'a rien à voir avec l'eau. L'eau existe ou n'existe pas, il fait le taïmoum. Celui-là c'est un malade, on parle d'un autre cas. Maintenant moi je parlais du cas celui qui va faire le taïmoum à cause de l'eau. Il a dit j'ai pas trouvé de l'eau, comment je vais faire? la prière va sortir, on lui dit fais le tayammum. Fais le tayammum. Celui-là, s'il trouve de l'eau, après, il ne peut plus terminer le tayammum, comme vous devez le savoir. Ensuite, donc premièrement, c'est cela. Premièrement, c'est l'eau. Et on va voir maintenant, on va voir, par exemple, il pleut. Il pleut, s'il peut, comment dire, ramasser de l'eau, là, s'il peut mettre quelque chose comme ça, une bassine, pour la remplir d'eau, ensuite, il fait les ablutions, c'est possible. Mais il ne peut pas faire les ablutions de l'eau qui tombe directement du ciel. L'eau qui tombe directement du ciel, il met ses deux mains, il commence à faire les ablutions. S'il ne fait pas une bida, c'est impossible. Parce que c'est impossible de le faire dans ce cas, parce que vous savez que les gouttes, il y a une qui tombe à gauche, l'autre à droite, elles ne tombent pas toutes exactement au même endroit. Donc si on met une bassine, on la remplit d'eau, ensuite, ou là, une casserole, ou là, ensuite, on fait des ablutions avec l'eau de la pluie, qui est très pure, comme vous devez le savoir. Donc c'est premièrement, tout ce qui annule l'eau d'eau, annule le tayammum. Deuxièmement, s'il y a l'eau. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna sa'id al-tayyib, il a dit le tayammum wadu ul muslim. Le tayammum, tu peux l'employer pour faire les ablutions. Wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Il a dit, même si tu ne trouves pas l'eau 10 années. Subhanallah al-Azim. Écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? 10 années. Tu ne trouves pas l'eau 10 années, tu fais le tayammum. C'est pour dire quoi? Les gens qui disent le tayammum, Allah, moi, si je fais une prière avec tayammum, j'ai peur qu'elle soit pas valable. Allah, moi, j'ai entendu des gens dire cela. Non, même je suis malade, je préfère ne pas aller au tayammum. Moi, j'ai des doutes. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 10 années. Tu es 10 années dans un endroit où il n'y a pas d'eau, 10 années tu fais le tayammum. Quand il a dit 10 années, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire 20 années. Tu peux faire 20, 30, 40, 50 ans. Il a dit 10 années pour te montrer que même si c'est beaucoup, tu peux le faire. Donc tu es 20 ans dans un endroit où il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je ne fais pas la prière, il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Maintenant, c'est le tayammum qui est à la place de l'eau et il est à 100%. Il est à 100% à la place de l'eau. Donc quiconque qui dit, yani, j'ai peur du tayammum, etc., celui-là, c'est un grand jahl. C'est un grand jahl. Allah Azza wa Jalla lui a donné des rukhas. Ça s'appelle une rukhsa, des permissions. Allah, je t'ai donné des permissions. T'as facilité le din. T'as facilité. Toi, tu veux quoi? Tu veux dire que c'est pas possible et ça se fait pas et c'est haram. Et si au moins, tu le disais à toi-même. Mushkila, tu vas dire même aux gens. Aux gens, tu vas leur dire, tayammum, ça se fait pas maintenant, ça se faisait autrefois. Comme disent maintenant beaucoup de gens, ils te disent, quand tu voyages, le ramadan, quand tu voyages, tu peux pas manger. Pourquoi? Pourquoi on peut pas manger? Tu peux pas manger parce que quand tu es dans l'avion, il y a tout. Là, l'avion ne fait qu'une heure pour arriver. Évidemment, il y a le climatiseur, il y a tout. Donc, tu peux pas manger. Autrefois, on mangeait parce qu'on faisait le voyage 500 km, ça prenait des mois, le chameau, la fatigue, la chaleur, les maux de tête. C'est pour ça qu'on mangeait. Maintenant, on mange pas. Celui-là, je vous ai dit, Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, Ibn Taymiyyah a dit, quiconque dit une chose, comme je viens de citer maintenant, celui-là, yustateb, on lui dit, fais-le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, s'il le fait pas, le gouverneur doit le tuer. L'âme, celui-là, il doit le tuer. Pourquoi? Parce que celui-là, il donne des choses de sa tête. Il veut faire changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il veuille ou pas. Il veut la changer. Allah Azza wa Jalla dit, le prophète alayhi wa sallam dit, tu peux manger. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui, un mécanicien, un boulanger, quelqu'un qui vend les tomates, il va dire non, c'est interdit, je suis devenu un grand mufti moi. C'est moi le grand mufti de la ville ici. Vous n'avez pas droit de manger. Celui-là, on lui dit, fais le repentir. Sinon, il est dans un état islamique. Sinon, on appelle la police, elle va te prendre chez le gouverneur là-bas, le juge, il va juger, tu vas mourir demain. C'est ta faute. Pourquoi tu veux changer l'islam? Allah Azza wa Jalla a fait descendre des choses, soit tu veux les changer. Allah a dit, quand tu fais le voyage, tu peux manger. Toi, tu dis non. Je suis là, j'ai des conditions. Il faut que vous mettiez les conditions dans le Coran et la Sunna. Mettez mes conditions. Quelles sont tes conditions? On ne peut pas maintenant en ce temps. On ne peut pas. Autrefois, on pouvait. Donc, c'est quelqu'un qui veut changer le Coran et la Sunna. En ce sens, s'il ne fait pas le repentir, Cheikh l'Islam a dit, celui-là doit être tué. Ça existe dans Majmou al-Fatawa. Si vous voulez, Inch'Allah ta'ala, je vous donne la page et le numéro. Pas maintenant, bien sûr, je ne les ai pas sur moi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le taïmoum, tu peux le faire 10 années. Ensuite, il a dit, voilà quelque chose d'important, il a dit, fa'ida wujid al-ma'u, ou fa'ida wajad al-ma'a. Maintenant, il a dit, si tu trouves de l'eau, et du missa, basharata. Tu dois, yani, employer de l'eau. Yani, l'eau, tu dois le faire toucher ta peau. Voilà ce qu'il veut dire. Il faut que tu touches l'eau avec, sur ta peau. C'est-à-dire, il faut que tu fasses les ablutions. Fa'ina dalika huwa khair. Donc, quiconque a fait les ablutions, le taïmoum, à cause d'eux, il n'avait pas d'eau. Maintenant, s'il y a l'eau, il ne peut plus faire le taïmoum. Ensuite, les ulama ont parlé de la mouchkila quand il est en plein salat. Il est en plein salat. Ensuite, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai fait le taïmoum parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ce n'est pas parce que j'étais malade. Quand on est malade, on peut faire le taïmoum. Avec des conditions, on va les citer. Maintenant, j'ai fait le taïmoum à cause qu'il n'y a pas d'eau. J'ai cherché de l'eau, il n'y a pas d'eau. Maintenant, j'ai fait le taïmoum. J'ai commencé à prier. J'ai fait une raka'a, je fais le dor par exemple. J'ai fait une raka'a ou bien deux. Une raka'a ou deux. Ensuite, j'entends quoi? J'entends le robinet qui coule. Ou bien j'entends les enfants en train de jouer avec l'eau du robinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est venue au robinet. Dans ce cas, je suis en plein salat. Est-ce que je me dis, moi, alhamdoulilah, quand je suis rentré en salat, j'ai dit, Allahu Akbar, il n'y avait pas d'eau. Donc, moi, je termine. Pourquoi? Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'eau. Ou bien je me dis, moi j'ai commencé parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, ce que j'ai commencé, je l'ai fait sans eau. C'est valable. Maintenant, l'eau existe. Je ne peux plus commencer. Je dois m'arrêter. Là, bien sûr, il y a une grande divergence entre les ulama. Le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est que tu dois sortir de ta salat. Ta salat, si l'eau est venue, est annulée. Dès que tu entends l'eau dans le robinet, ou bien tu entends ton fils ou la dire, voilà, j'ai ramené un bidon d'eau, ça veut dire, assalamu alaikum, ta salat est terminée, tu dois sortir ta salat, la couper en plein milieu et aller faire les ablutions. Ensuite, quelles sont par exemple les choses pour lesquelles on va faire le taïmoum? Je dis que, premièrement, on fait le taïmoum à cause de quoi? À cause de si on n'a pas d'eau. Deuxièmement aussi, on peut faire le taïmoum quand quoi? Quand on est malade. Et avant cela, quand je dis qu'on ne trouve pas d'eau, des fois, tu as l'eau devant toi et tu ne peux pas l'employer. Celui-là, c'est comme s'il n'avait pas trouvé d'eau. Je donne un exemple. L'eau se trouve dans un puits. Et le puits est profond de 10 mètres. Moi, quand je regarde en haut, il y a l'eau. Mais est-ce que moi, je peux descendre? Il n'y a pas d'échelle. Je vais m'amuser. Il y a ma femme qui va me tenir une corde et je vais descendre en bas. Je vais m'amuser à faire cela. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, je n'ai pas d'eau. Pourquoi? L'eau existe, mais elle n'est pas à ma portée. L'Azul, quand il a dit, si vous trouvez de l'eau, ça veut dire l'eau que vous pouvez utiliser. C'est pas l'eau qui est inaccessible. L'eau qui est inaccessible, elle compte pas. Je donne un autre exemple. J'ai beaucoup d'eau dans une bassine pour faire des ablutions. J'ai beaucoup d'eau, mashallah. Maintenant, devant la bassine, il y a un lion. Il y a un lion qui est tassé. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai pas de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est inaccessible. Il y a un lion devant l'eau. Je peux pas donc faire mes ablutions. C'est comme si je n'avais pas d'eau. Donc, quand on dit en islam, si tu as de l'eau, tu peux pas faire le taïmoum, ça veut dire si tu as de l'eau à ta portée, accessible, tu peux le prendre. C'est pas de l'eau, par exemple, interdite. Ou là, de l'eau loin de toi. Il faut que ça soit accessible. Et la même chose aussi, quand quelqu'un, par exemple, est malade. Quelqu'un est malade, s'il sait que, s'il va employer de l'eau, ça va ou bien le rendre plus malade. Ou bien ça va attarder sa guérison. Ou bien il sait que l'ouada c'est dangereux pour lui. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le taïmoum jusqu'à, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à ce qu'il soit guéri. jusqu'à ce qu'il soit guéri. En ce qui concerne la maladie, il retarde. Oui, des fois il retarde. En ce qui concerne la maladie, quelle est la chose, quelle est la maladie exactement, la maladie qui permet d'aller au taïmoum? Quelle est la maladie qui permet d'aller au taïmoum? Les ulama ont dit, la maladie, c'est toi qui la connais ou bien le médecin. Quand ton médecin te dit, toi tu peux pas mettre de l'eau, ça veut dire que c'est dangereux pour toi, ça veut dire ça y est, je ne peux plus mettre de l'eau, je vais aller au taïmoum. Ou bien des fois c'est toi qui sais, pourquoi? Tu as l'expérience. À chaque fois que tu fais des ablutions avec de l'eau, tu as ta tête qui fait mal, tu as ton nez qui fait mal, tu as les yeux qui commencent à couler, tu as ceci, cela. Donc, des fois, la chose revient à toi-même. Comme a dit le prophète, il a dit, demande à toi-même, même si les ulama t'ont répondu, etc. Des fois, toi, tu sais mieux que les ulama. Qu'est-ce que tu sais mieux que les ulama? Tu sais le din? Non, tu te connais mieux que les ulama. Moi, le alim, il ne connaît pas comment je suis exactement. Je peux même lui cacher des choses. Mais toi, tu sais exactement comment tu es. C'est pour ça que les ulama ont dit, des fois, quelqu'un, il a une petite chose dans son doigt, une petite égratignure. Une petite égratignure dans son doigt, et lui, il sait que il peut pas aller à l'eau. Il ne peut pas faire des ablutions. C'est lui qui sait. Il sait que cette petite égratignure, si l'eau la touche, ça va lui faire beaucoup de problèmes. Et pourtant, on trouve un autre qui a par exemple une blessure assez grande, et celui-là, il dit non, j'ai l'habitude de faire l'eau au dos. J'ai l'habitude. La blessure, l'eau ne lui fait rien. Donc, il y a une différence de personne en personne. C'est pas la même maladie, ça change beaucoup. D'une personne à personne, cette personne peut faire le taïmoum pour une chose qui nous paraît simple, alors que pour elle c'est difficile. Et cette personne ne peut pas, elle doit faire le wudu, et pourtant on voit qu'elle a une blessure. Mais c'est elle qui connaît cela. Ensuite, en ce qui concerne, en ce qui concerne avec quoi on fait le taïmoum? Naam, c'est la personne qui estime elle-même. Avec quoi on fait le taïmoum? On fait le taïmoum, certains ulama ont conditionné, ils ont dit, la chose avec laquelle tu fais le taïmoum, elle doit contenir la poussière. La poussière, c'est pour ça, quand tu frappes les mains, tu souffles sur tes mains pour enlever la poussière, pour les dépoussiérer. Mais le vrai et le juste, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen al-Albani et beaucoup d'autres, alayhim rahmatullah, ils ont dit, le fait de dire il faut qu'ils aient de la poussière n'est pas très juste. Et ce n'est pas ça l'arjah, ce n'est pas le plus juste. Ce n'est pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voyager, etc. Et il était dans plein désert, il était frappé sur les rochers des fois. Un rocher, on a un grand caillou. Quand la pluie tombe sur le caillou, la poussière reste, elle ne reste pas. Et ai-je le droit de faire taïmoum sur un caillou? Je n'ai pas, j'ai le droit. Alors où est la poussière? Il n'y a pas, il y a la pluie qui est tombée sur le caillou. Donc la poussière n'a rien à voir avec le taïmoum, barakallahu fikoum. Celui qui dit, il faut la poussière, il rapporte un délit. Il ne pourra pas. Il va chercher à gauche, à droite, il ne va jamais trouver un délit. Il ne va jamais trouver un. Et ceux qui disent, le taïmoum, c'est seulement la terre, il ne pourra pas aussi. Il ne trouvera jamais un délit. Il va dire la terre, il ne trouvera jamais un délit. On lui dit, donne-moi un délit. Sauf qu'il va faire venir un délit. Mais ce délit nous montrera quoi? Nous montrera que cette personne elle-même n'est pas un savant. Si quelqu'un va se baser sur ce délit, ça veut dire que lui-même, il ne connaît pas bien ce qu'on appelle usul fiqh. Il n'a pas étudié usul fiqh. Il va nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَوْرًا. Le prophète Hassan a dit, la terre m'a été faite comme masjid, mosquée et tahor, et elle purifie. Donc il va nous dire, voilà qu'est-ce qu'ils vont. Donc le prophète a dit, la terre est une mosquée, je peux faire la prière sur elle, et tahor, elle purifie. Ensuite il a dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, il y a un deuxième hadith qui a dit aussi, qui est vrai, وَجُعِلَتْ لِي تربتها طهورا. Il va nous dire, donc le deuxième hadith n'a pas dit la terre, mais il a employé le mot turab. Turbatuha, yani turba, c'est comment on dit, c'est pas comment on dit, on a Turab, hein, Turab, c'est pas la terre. Quand je parle de la terre, il y a ni le sol, Kullu. Maintenant, il va dire, voilà une preuve où c'est prononcé le mot Turab, ou Dieu a écrit Turbatua. Auparavant, il avait dit Ardoha, maintenant le hadith a dit Turbatua. Ils vont dire, donc, Hada, c'est Dalil, ce qu'on appelle, c'est au sol, c'est Tarsis. Tarsis. Tout à l'heure, il a dit, Turab, c'est la poussière, non. Tout à l'heure, il a dit la terre, maintenant, il a dit la poussière. La poussière. Donc ils vont dire, voilà un hadith très clair qu'il faut la poussière. À celui-là, on lui dit, tu t'es trompé beaucoup. Ça, on ose le faire, ça s'appelle, التنصيص على بعض أفراد العام. التنصيص على بعض أفراد العام والتنصيص على بعض أفراد العام لا يخصص. On va dire ça, tu t'es trompé. Un chapitre au solfer qui dit que ça ce n'est pas, c'est pas tarsis, c'est pas ce que quelque chose en général, ensuite quelque chose particulier. Non, c'est pas ça. Ça, le prophète Islam a parlé de la terre en général. Dans le deuxième hadith, il a parlé du Turab, il a parlé de la poussière, ça, que ça se faisait avec. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait qu'avec la poussière. Voilà la différence. Donc le Tayammum, on peut le faire avec toute chose qui vient de la terre. À condition que ça soit pas par exemple des métaux, ça soit pas par exemple du fer, du zinc, ça soit pas un arbre, car dans le fiqh de Imam Malik, il est permis de faire avec un arbre, il est permis de faire le taïmoum sur l'arbre, mais les ulama ils ont dit le plus juste, non, le plus juste tu fais avec les cailloux et les choses qui sortent de la terre ou bien qui sont au-dessus de la terre, liées à la terre, c'est pas des arbres, etc. Donc tu peux faire par exemple avec le caillou, tu peux faire avec une brique, tu peux faire avec un rocher, tu peux faire avec le sable. Quand on est par exemple le sable, le désert, la plage, tu fais avec le sable, tu peux faire avec le toute chose qui a trait, qui a rapport avec les cailloux, etc. Maintenant, certains ulama ont dit qu'il faut que cette chose ne soit jamais rentrée au four. Yani, par exemple la brique rouge avec laquelle on construit des maisons, ils disent on ne fait pas le taïmoum avec. Pourquoi on ne fait pas? Ils disent elle est rentrée au four. Car celle-là, on l'a fait rentrer au four, ensuite on l'a fait sortir. Elle prend la forme du carré comme ça avec des trous. Les ulama ont dit non, ça c'est pas vrai. Il n'y a aucun dalil qui dit que si quelque chose rentre au four et elle sort, ce n'est pas un caillou. Non, ils ont dit on peut faire avec la brique, on peut faire même, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, tu peux faire même avec le mur. Si les autres vont dire il y a la peinture, Cheikh Al-Albani a dit, Allah Azza wa Jalla savait qu'il allait avoir la peinture, il a dit, c'est pas interdit. C'est interdit s'il y a le papier peint. Il y a le papier peint sur le mur, tu peux pas, car tu as fait sur le papier. Mais sur le mur, sur la dalle de sol, sur le carrelage, sur toute chose qui est, caillou, etc. Tout ça, tu peux faire le taïmoum dessus, c'est pas la peine d'aller dans la rue chercher le tourab et la poussière, etc. Tout cela, ce n'est pas la peine. Ensuite, il est l'heure, Inch'Allah Ta'ala, il est l'heure et il reste beaucoup à dire. Je m'arrête, Inch'Allah Ta'ala, dans cette chose-là. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on continuera. Il y a beaucoup de choses à dire sur le taïmoum. Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes ou un peu plus, 10 minutes, on répondra à vos questions. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت لا حول ولا قوة إلا بالله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم avant de commencer إن شاء الله تعالى je dirai à mes frères et mes sœurs il y a certains ces derniers temps ils m'ont envoyé leur devoir t'as le hukm al-usuli le wajib mandoub mustahab etc. Mais j'ai tellement de courriers que je ne sais plus quels sont yani, les devoirs que je n'ai pas encore corrigés. C'est pour ça que je demande inchallah quiconque m'a envoyé, ça fait seulement 4 ou 5 jours qu'il envoie son pseudo par exemple à Abdallah ou la Ndjabi là ou là pour qu'elles m'envoient leur pseudo. Comme ça, je vais directement au courrier. J'ai tellement de courriers que je ne sais plus quels sont ceux auxquels je n'ai pas corrigé. Les autres, je les ai corrigés, je vous ai donné J'ai cité vos pseudo la fois, allez, ça fait 15 euros là. Inch'Allah ta'ala, j'espère que vous m'avez compris. Deuxièmement, je réponds très vite aux questions qui me sont venues. Non, je sais. Je réponds très vite aux questions qui me sont venues dans la boîte, à l'email. Je vais voir d'abord s'il est là. Ah, voilà. La première question, c'est Akhouna Muslim Normal qui l'a posée. C'est Akhouna Muslim Normal qui l'a posée. Il a dit, je voudrais, écoutez ce qu'il a dit. Je voudrais vous dire que hier soir, j'ai été très déçu d'avoir levé la main pendant une heure. Et lorsque j'ai voulu poser ma question, j'ai pas réussi à le faire. Le frère qui devait le faire ne me l'a pas fait non plus, ni les sœurs, ni personne. Voilà ma question. Je voudrais savoir s'il existe une contradiction dans le fait que beaucoup de musulmans seront châtiés le jour du jugement et dans leur tombe à cause des péchés, et dans le hadith qui dit qu'Allah a gardé 90% de sa miséricorde au jour du jugement dernier. Pouvez-vous m'éclairer cette question, Barclofé? Ensuite, il a dit, je viendrai demain écouter la réponse, Inch'Allah, et Inch'Allah, je reviendrai plus dans ce salon. Car vraiment, j'ai été déçu par les comportements. Ne donnez pas de responsabilité à des gens qui en sont incapables. Barakallahu fik. Premièrement, ce qui concerne la question, il a dit, parce qu'il y a une contradiction entre le fait que beaucoup de musulmans seront châtiés et que la rahma de, que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé 99%. On doit dire quoi? Alhamdulillah que seront châtiés, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils seront châtiés le jour du jugement dernier. Parce que ici, il y a le châtiment ici, et il y a dans la tombe. Ici, c'est comme celui dont je vous ai raconté une fois, qui avait rencontré une femme et qui l'avait touchée dans sa main. Ensuite, il l'avait seulement touchée. Ensuite, il s'est cogné la tête contre le mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comme dans le hadith sahih, il lui a dit, toi c'est quelqu'un, Naam, toi c'est quelqu'un que Allah Azzawajal a voulu, dans Allah Azzawajal a voulu du bien. Dans Allah Azzawajal a voulu du bien. Car quand Allah Azzawajal n'aime pas le bien de quelqu'un, il le laisse avec quoi? Avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre. Donc là, qu'est-ce qu'on voudrait dire? On voudrait dire que, alhamdulillah, chaque personne qui, tu sens, tu as fait un péché, ensuite tu as un malheur, tu dois dire quoi? Tu dois dire alhamdulillah, entre parenthèses, que j'ai eu le malheur, alhamdulillah. Parce que sinon, c'est que Allah Azza wa Jal veut que je le rencontre avec mes péchés. Mais Allah Azza wa Jal a voulu me purifier dès maintenant. C'est comme ça qu'on doit avoir regardé le malheur. On dit alhamdulillah parce que j'ai fait des péchés, Allah Azza wa Jal a voulu me purifier maintenant. Deuxièmement, alhamdulillah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le qabr, la tombe. Il y a la tombe, dans la tombe, plusieurs gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs musulmans vont avoir beaucoup de difficultés dans la tombe. Beaucoup de difficultés aux musulmans. Pourquoi? Pour que Allah Azza wa Jal, quand ils le rencontrent, ils le rencontreront, alhamdulillah, sans péché. Et troisièmement, il y a les maladies, par exemple. Quand tu tombes malade, pourquoi tu tombes malade? Allah Azza wa Jal veut te purifier. La maladie, elle t'enlève tous les péchés. Elle t'enlève les péchés, bien sûr. Elle purifie la personne. Elle enlève les petits péchés. Ensuite, quatrièmement, des fois, on a même ce qu'on appelle une épine. Une épine qui rentre dans le pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même cette épine va, se purifier. Donc, il n'y a pas de contradiction. Allah Azza wa Jal a laissé 99 très grandes rahmat qui attendent le jour du jugement dernier. S'il n'y avait pas ces 99, bien sûr, on serait tous, allés en enfer. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a laissé ces 99 pour ceux qui ici n'ont pas été purifiés ni par les maladies ni par la tombe, ni Allah Azza wa Jal les aidera ce jour-là s'ils n'ont pas fait, comme je viens de dire, de grands péchés. S'ils n'ont pas fait de grands péchés, comme les grands péchés que vous connaissez, le shirk, etc. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, en ce qui concerne qu'est-ce que tu as dit? Naam. Je ne reviens dans ce salon car j'ai vraiment déçu par le comportement. Ne donnez pas de responsabilité à des gens qui sont incapables. Barakallahu fik. En ce qui concerne, tu ne viendras plus dans ce salon. Moi, bien sûr, je vais pas dire il faut que tu viennes, mais je te conseille seulement d'avoir un cœur assez ouvert pour tes frères et tes sœurs, et qu'on doit tous accepter les défauts, nos défauts l'un de l'autre. Sinon, à chaque fois que quelqu'un fait une faute, on dit à cause de ce quelqu'un, je vais plus aller à cet endroit ou là je vais plus lui parler, etc. Bien sûr, nous les musulmans, on doit avoir, yani, on doit être une qudwa, yani, on doit être une qudwa. On doit, les gens doivent, quand ils nous voient, ils disent voilà le vrai islam. Quand quelqu'un de mes frères se trompe, j'essaie au maximum de lui pardonner. Allah Azza wa Jalla dit wa in ta'fu wa tasfahu, wa'fu wasfahu. Il a dit wa'fu wasfahu. Ensuite, écoute que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قل للذين آمنوا ديو كوايون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ديو كوايون في الفردان يغفروا فردان à ceux qui ne pensent même pas qu'il y a l'au-delà, يعني au kuffar, ديو كوايون de pardonner au kuffar. Il a dit wa fous fahu, etc. C'est pour ça que il faut que nous, يعني, on s'excuse les uns aux autres et que on essaye au maximum de nous pardonner à nous-mêmes, car si on ne peut pas se pardonner, comment peut-on, on va s'unir et comment on va être des frères et comment on va, yani, comment Allah Azza wa Jalla va nous aimer si pour une petite faute on va plus parler avec quelqu'un, etc. En ce qui concerne la dernière chose que tu as dit, ne donnez pas les sentiers à des gens qui en sont incapables, barakallahu fik. Non, en ce qui concerne la responsabilité, moi, yani, franchement, quiconque, yani, me dit par exemple, est-ce que je peux faire ceci ou cela, si je peux lui donner la chose, je la lui donne. Anna, hier, regarde, tu regardes déjà, toi tu ne nous as pas dit d'abord qui c'est cette personne, tu as bien fait de ne pas citer le nom. Il y a quelqu'un maintenant, il s'appelle Ilyes Ebouanes, il est avec nous, il est en administrateur, il est rentré, il gère la salle. Pourquoi? C'est lui hier qui m'a dit, je vois que tu es, par exemple, là, c'est difficile pour toi, tu es sollicité, si tu veux, je t'aide. Si tu veux, je t'aide. Classe. Voilà le numéro et rentre. Quiconque en ait venu des ou là, je n'ai pas de problème. J'ai même pensé, je me suis dit, peut-être à chaque fois, yani, tous les mois, je donne, par exemple, deux sœurs, deux frères administrateurs, tous les mois comme ça, pour que tous, inshallah, ils participent, tous ils aient le hajr, que personne ne dit pourquoi celui-là il a l'autre et moi je ne l'ai pas. Quiconque veut nous aider, quiconque veut le hajr, quiconque veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa salle. La salle, c'est sa salle, qu'il dit seulement je veux ceci, je veux cela, et je n'ai aucune différence entre les uns et les autres. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, quelqu'un a dit, pardonnez-moi du rangement, je vais poser une question. Est-ce que l'homme et la femme peuvent voir leur nudité lors du grand bain, s'ils le font ensemble ou généralement? J'ai donné le hadith, inshallah ta'ala, où j'ai montré que Aïcha et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils prenaient la douche, qu'ils étaient nus. J'ai dit comment que faisait Moussa alayhi salam et Ayyub, etc. J'ai montré dans les hadiths son passé. Donc, il n'est pas interdit à l'homme et son épouse d'être nus pendant le bain. Ni pendant le bain, ni pendant autre chose. Seulement, ce qui est interdit, c'est que les gens les voient. Maintenant, si je suis seul avec ma femme, il n'est pas interdit que je sois nu et elle, la même chose. Troisièmement, est-ce haram pour un musulman vivant au Sénégal, par exemple, de travailler dans une banque qui n'est pas islamique? Naam, il est haram de travailler dans une banque qui n'est pas islamique. Il est haram de travailler dans une banque qui fait les intérêts, etc. Car tu dois, quand tu travailles, yani, tu es avec eux. Yani, tu as participé avec eux. Tu leur fais des calculs dans la banque, tu signes des chèques, tu fais des choses. Donc, la banque, c'est quoi? C'est un groupe de 20 ou 30 ou 40, 50 personnes qui travaillent à l'intérieur. Tous ils sont shuraka, tous ils sont, yani, comment qu'on dit, shirk, tous ils sont un peu, yani, dans le pétrin. Tous ils sont dans le pétrin. Pourquoi? Parce que la banque, s'il n'y avait pas toi, le deuxième, le troisième, il n'y aurait pas eu de banque. Donc le musulman, inshallah ta'ala, il essaye de chercher un autre travail. Je te dis pas de quitter ton travail, ça je ne l'ai pas dit. Je t'ai pas dit de quitter ton travail, et voilà, complice. Je t'ai pas dit de quitter ton travail, je t'ai dit seulement d'essayer, inshallah ta'ala, de trouver un autre travail, même si c'est moins cher, même si la paye est moins, yani, elle n'est pas élevée, ça ne fait rien. Car 10 dollars ou là 10 euros de halal, c'est mieux que 1000 euros de haram. Ça tu le sais. 10 euros halal, c'est mieux que 1000 de haram. Peut-on faire le pacte d'allégeance, le bay'a, à un président musulman qui dirige un pays laïque? Un musulman, président musulman, qui dirige un pays laïque. En général, je ne parle pas du président X ou Y avec les noms, je ne les connais pas. En général, tant que le président est musulman, tant qu'il dit je suis musulman, tant qu'il laisse faire la prière, tant qu'il y a les mosquées,
Donc tu le vois, des fois il part à Umrah, à Hajj, etc. Celui-là, quiconque ne lui fait pas la bay'a, le pacte que tu as dit ici, le pacte, comment ça s'appelle, pacte d'allégeance. Quiconque ne lui fait pas le pacte d'allégeance, s'il rencontre demain Allah subhanahu wa ta'ala, il le rencontrera en colère contre lui. Naam. Il suffit quoi? Qu'il soit musulman, c'est tout. Maintenant, s'il boit l'alcool, s'il fait ce, s'il vole, s'il emmène les gens en prison, si c'est un tyran, c'est un paria, tout ça, ça t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, est-il musulman ou pas? S'il a dit je suis musulman, alors tu dois lui faire ce pacte, sinon, demain tu rencontres Allah Azza wa Jal en colère contre toi. Au sujet de la femme qui engendrera sa maîtresse. Naam, Yusherik, participe, ça. J'ai dit que dans la banque, lui aussi, c'est un participant. En ce qui concerne le hadith de Bukhari, où il est dit que la femme engendrera sa maîtresse. Il a dit, un frère étudiant à Damas m'a donné deux explications, et l'une de ces deux explications, qu'il s'agit d'une femme qui s'est convertie, et qui a émigré dans un pays musulman, et qui s'est mariée, et par la suite son mari est retourné dans le pays d'origine son épouse. Pour le djihad, il a fait des prisonniers, et parmi ces prisonniers, il y a la mère de son épouse, qu'il a pris comme esclave. Et par conséquent, elle devient esclave de sa fille. Naam. C'est-à-dire, Rabbata. Ma question est la suivante. Est-ce que le mari a le droit d'avoir des rapports avec cette esclave, dont la mère et son épouse? Il jawab, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, avant que le frère de Damas ne te donne l'explication, toi, alhamdoulilah, tu as Sahih al-Bukhari qui a été expliqué par Ibn Hajj al-Asqalani. Ibn Hajj al-Asqalani, quand tu reviens à ce hadith, il va te donner cette explication exactement. Dans ce hadith, il a dit ce hadith, il a été expliqué en sept sens. Et l'un des sens, c'est celui dont t'a donné le frère Hadad de Damas. Donc, Inch'Allah, quand tu as ce livre, tu n'as besoin ni du frère de Damas, ni du frère d'ailleurs. Tu as ce livre, yani, il a beaucoup, beaucoup plus de haine. El-Mohim, en islam, il est interdit à quelqu'un d'épouser sa femme et sa mère en même temps, même si elle est une esclave. Une esclave, quand quelqu'un veut épouser une esclave, d'ailleurs c'est interdit en islam, avec deux conditions seulement il est permis. Quand on épouse une esclave, sa sœur, on n'a pas le droit de l'épouser jusqu'à ce que on divorce et la période de viduité se termine. Alors sa mère, elle est interdite à vie. Même la période de viduité se termine, on ne peut pas épouser la mère de nos épouses. Qu'elle soit esclave ou qu'elle soit libre, il n'y a aucune différence. C'est pour ça qu'en islam, lorsqu'un homme, seulement il fait l'acte du mariage, il fait seulement l'acte avec sa fille, avec une femme, il a fait l'acte, il a fait les témoins, etc., mais il n'est pas rentré, il n'a pas fait la nuit nuptiale. Seulement il a fait l'acte, ensuite il divorce. Il dit non, j'ai changé d'avis. Il ne pourra jamais se marier avec la mère de cette femme. Jamais de la vie. Pourtant, il n'a rien fait avec la fille. Il ne pourra jamais se marier avec sa mère. Et le contraire est juste. Si quelqu'un fait l'acte avec une femme, un acte de mariage, ça y est, elle a consenti, son wali, les deux témoins, ils ont fait un acte, ils ont écrit. Ensuite, il divorce. S'il n'a rien fait avec sa mère, il peut se marier avec sa fille. Non, il peut se marier avec sa fille, condition de n'être pas rentré avec sa mère. Mais s'il fait l'acte avec la fille, jamais il peut avec sa mère. Soit qu'il soit rentré chez elle, ou qu'il ne soit pas rentré. Allahu ta'ala alam. Ensuite, il a dit, est-ce qu'on a le droit de faire circonscrire, yani khitan, un enfant par un non-musulman? Le non-musulman ou musulman, c'est pas l'islam qu'on voit ici. On voit est-ce qu'il connaît, qu'est-ce que ça veut dire la circoncision, et est-ce qu'il connaît ses règles, il connaît comment on circoncise quelqu'un, etc. Si c'est cela, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Ensuite, un autre a dit, un frère veut faire une formation en pâtisserie, mais le problème c'est l'utilisation de l'alcool en pâtisserie. Donc le frère veut savoir s'il est permis de faire cette formation. Si dans la formation on lui dit voilà, tu prends de l'alcool, du cognac ou je ne sais pas quoi, tu le mets ici, ensuite tu mélanges et il va prendre le cognac, il va mélanger ça. Celui-là, il ne peut pas faire la formation, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, il est dit, j'ai une question concernant la hijra. Là, je lui répondrai, Inch'Allah, après. Cheikh, il y a un hadith, on a l'impression de comprendre que d'avoir des rapports anneaux, et de la mécréance majeure, ce qui se contredit beaucoup avec ce qu'ont dit les savants. Pouvez-vous nous confirmer, Inch'Allah Ta'ala? Naam, quand j'ai parlé hier de celui qui fait avec sa femme le rapport, il ne fait pas par devant, il ne fait pas de l'endroit d'où sort l'enfant, mais il fait par derrière. Celui-là, j'ai dit que c'est comme s'il s'est désengagé de l'islam. Il est bari min l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Non, sunna ou jama'a, on dit c'est un musulman. C'est un musulman, mais c'est un fasiq, c'est un pervers. C'est un maudit, et la femme est maudite. Les deux sont maudits. Et là, le jour du jugement dernier, il ne regarde pas envers eux. Yani, il se détournera, il ne veut pas les voir. Pourquoi? Parce que lui, il a fait à l'endroit où l'Azzawajal a dit c'est haram. Et la femme a accepté. La femme, au lieu de s'énerver, au lieu de dire non, au lieu de chercher le divorce, au lieu d'aller faire venir ses parents, elle accepte. Il lui achète une petite bague et elle accepte. Celle-là et celui-là sont maudits, pervers, et sont toujours des musulmans. Mais quand on rencontre l'Azzawajal courroucé, à quoi ça me sert moi de faire des prières? À quoi ça me sert si demain je rencontre l'Azzawajal, il ne veut pas me voir? Moi, quand mon père ne veut pas me voir, je ne dors pas une semaine. Comment vais-je faire pour être bien avec mon père? Maintenant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne veut pas me voir. L'Azzawajal te dit, je t'ai donné l'endroit d'où sort l'enfant, laboure-le, fais ce que tu veux, comme tu veux, alors que tu veux. Donc il dit non, je vais aller à l'endroit des excréments, pas l'endroit de halal. Ou bien je vais aller à l'endroit où il y a le sang, il y a les monstrues. Eva, fatazilo. Lui il dit non, c'est maintenant que je veux. Si lui accepte, ou bien elle accepte, et les deux le font, ces deux-là, ils se sont maudits jusqu'au jour où ils font le repentir, Inch'Allah Ta'ala, mais ce sont des musulmans. Est-ce, dernière question, est-ce permis de critiquer un savant de la Ummah? Car certains se permettent d'insulter certains savants parce que ce sont soi-disant des ikhwan. En principe, on n'insulte pas un savant, mais on dit ce que les savants disent de lui. Un savant, on n'insulte pas. On n'insulte pas, on ne dit pas chien, salaud, etc. Mais on dit ce savant, les autres savants, on dit de lui, attention, il a cette faute et cette faute, ou bien il n'est pas salafi, ou bien il a fait une grande faute ici, etc. C'est pas toi qui dis, toi tu dis ce que les savants ont dit. Wallahu ta'ala alam. On commence, Inch'Allah Ta'ala, wa Allah subhanahu wa ta'ala nous aïnana. Restez une question que je devais répondre, Inch'Allah Ta'ala, après, c'est celle de la hijra, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous avez reçu des questions? Est-ce que vous avez reçu des questions? J'avais dit hier que on envoyait des questions à ceux qui n'avaient pas les points rouges. Maintenant, peut-être les hommes, peut-être ils veulent prendre le micro. Tfadal Youssef le Médinois, tfadal. Ah, juste après Youssef. Alaykoum salam, j'ai deux questions. Akhi Youssef, je m'excuse. Laisse la deuxième question à demain, Inch'Allah. Regarde combien qu'il y a qui attendent. Il reste seulement une demi-heure. Jazakallahu khayran, barakallahu fi. Demain, Inch'Allah Ta'ala, tu poses la deuxième question. J'ai lu dans Tibbi Siblis que tout être a un démon et qu'il court. Inch'Allah, Jazakallahu khayran. Merci pour ta compréhension. Et qu'il court comme le sang court dans les veines. Quelle en est la preuve? Est-ce que ça applique au Nabi alayhi salam? Je te réponds très vite. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala shaf musallim. Tibli Siblis, le livre Tibli Siblis d'Ibn al-Jouzay, a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est la première remarque. Attention, il a exagéré dans certaines choses. Il a presque rempli de hadiths qui ne sont pas vrais. Deuxièmement, mais c'est un livre, il y a intéressant à dire. Deuxièmement, quand il dit il a un démon, non, quand il dit il a un démon, ça veut dire qu'on a un shaitan. Chacun a un shaitan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, un shaitan, mais dans le hadith sahih, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de lui un musulman. Allah azza wa jalla a accepté et a fait du shaitan du prophète, il a fait un musulman. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous vous avez un shaitan, sauf qu'il vous dise de faire le mal, sauf mon shaitan, Allah l'a rendu musulman, il ne m'ordonne que le bien. C'est un hadith sahih, je crois qu'il est dans Muslim. Il ne m'ordonne que le bien. Donc le prophète, son shaitan ne lui ordonne que du bien. Et Inch'Allah ta'ala, peut-être son shaitan sera le seul shaitan qui ira au paradis. Wallahu ta'ala a'lam. Omar Abdullah, tafaddali. Les sœurs qui donnent des directs aux sœurs, les sœurs qui écrivent aux sœurs, comme ça je fais passer un homme et la sœur pose la question d'une sœur. À chaque fois que je fais passer un homme, la sœur pose la question d'une sœur. C'est-à-dire que les sœurs, c'est pas la peine qu'elles lèvent la main, Inch'Allah ta'ala. Un par un. Naam. Et ensuite, j'ai oublié Youssef Medinois. On commence par les Osmo. Ceux qui ont un rapport avec Stelmo, Inch'Allah. J'ai une question, Inch'Allah. Lorsqu'un de nos membres est plâtré, ou bien qu'il est entouré d'une bande à la suite d'une fracture, doit-on faire le wudu tout de même, sauf sur cette partie, ou bien passer de l'eau sur la bande, ou avoir recours au taïmoum juste parce que ce monde ne s'est pas encore révélé? Pardonnez-moi, il se peut que vous l'ayez précisé, mais il n'est pas. Ils ont début du cours, barakallahu fikoum. Naam. Cette question, aussi facile qu'elle puisse paraître, elle est difficile. Cette question aussi facile qu'elle puisse paraître, elle est difficile. Pourquoi? Parce que j'ai lu que les contemporains, les ulama contemporains ont beaucoup divergé sur celle-là. Ont beaucoup divergé. Certains ont dit le fait qu'il ait une fracture, il a un plâtre sur sa main, cette main par exemple, elle tombe du wudu. Ça veut dire qu'il fait le wudu normalement. Quand il arrive à la main, il la saute. Il va directement à l'autre pied, ou là, ses cheveux et ses pieds. Non. D'autres ont dit, il essuie seulement dessus. D'autres ont dit, il va directement au taïmoum. Celui-là, il ne fait pas le wudu. D'autres ont dit, il fait le wudu pour tous ses membres. Sauf quand il arrive à la main, qu'il ne peut pas laver, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le taïmoum. Ça veut dire, ils ont dit, il joint entre faire le wudu dans tous les membres sauf la main et faire le taïmoum à cause de la main. Cette mis'ala est tellement compliquée, il y a tellement de divergences que je suis jusqu'à présent en train de chercher. Je suis jusqu'à présent en train de chercher quel est le plus juste. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani par exemple il dit il n'y a pas le hadith où on peut essuyer sur quelque chose. Il dit le hadith il est daif. Et les autres ils ont marché sur le hadith, ils ont marché sur le qiyas. Il a dit une chose, tu essuies, c'est mieux que d'aller au taïmoum, essuyer avec de l'eau comme ça, par-dessus, c'est mieux que d'aller au taïmoum. Mais Inch'Allah ta'ala, je préfère chercher encore avant de te répondre. Je préfère, Inch'Allah ta'ala, chercher encore avant de te répondre. Et Inch'Allah, quand je viendrai du voyage, Inch'Allah ta'ala, je te donnerai une réponse à la qui sera sûre. Donc, t'es fait là, pouvez-vous le faire, etc. Naam. أبو وأم لينا تفضل. Naam Aboulina, j'ai reçu ta question dans les mails, j'ai pas encore répondu, ah, je l'ai reçu, Inch'Allah ta'ala, je te répondrai en PV, ou bien sans citer ton nom, naam en privé, ou bien sans citer ton nom, au moment voulu, Inch'Allah ta'ala, quand j'aurai trouvé ce qu'il faut te dire. Peut-on faire usage taïmoum si pour cause on s'est coupé le doigt, plus ou moins profondément, et sinon, peut-on faire des ablutions en passant sur la main mouillée, sur le pansement? C'est la même réponse à ce que je viens de dire. Beaucoup d'ulama ont dit tu peux passer comme ça la main dessus. Tu passes comme ça la main dessus. Cheikh Ibn Rakimi, Cheikh Ibn Taymiyyah ont dit c'est mieux que d'aller au taïmoum. Tu passes comme ça à main dessus. Mais le malheur c'est que comme je viens de dire, Cheikh Al-Albani a dit il n'y a rien dans la sharia, aucun hadith qui dit qu'on peut essuyer sur quelque chose. Il a dit il n'y a aucun hadith qui dit qu'on peut essuyer sur une chose. Ils ont dit tout ça c'est basé sur un hadith daif. Mais Inch'Allah ta'ala, toi aussi je te répondrai la prochaine fois, quand je viendrai Inch'Allah ta'ala du voyage, et je demanderai quelle est la vie le plus juste par exemple des grands ulama. Wallahu ta'ala alam. Naam. Fika barakallah. Est-ce qu'il y a une question d'une sœur? Fadli. Comme ça, les sœurs, c'est pas la peine qu'elles lèvent la main. Comme ça, c'est pas Mariam, je voudrais savoir si lorsque l'on apprend le Coran, on doit cacher certaines parties de son corps, son bras, jambes, pas par la glorie. Ça n'a rien, Mariam, ça n'a rien à voir avec la lecture du Coran. Quand on lit le Coran, on le lit normal. On a quelque chose de notre corps qui apparaît. Ce n'est pas grave et c'est pas la peine de cacher ce qu'on doit. Bien sûr, on doit être dans un état yani, assez normal. On est normal. On doit pas être, par exemple, au maillot de bain. Là, on va lire le Coran comme ça. Ça, c'est clair. Et quand on est normal, yani, on a les bras qu'on voit, et puis un peu en bas, le demi-tibia, etc. Un peu la poitrine. Tout cela, ce n'est pas interdit. Il n'y a rien qui est interdit. Cela, Inch'Allah Ta'ala. Ala Ad-Din 93, tafadhal. Ortifilla, je vais revérifier que ta lettre est arrivée. Je sais qu'elle est arrivée, ça fait peut-être une semaine ou la plus. Je vais être sûr seulement de voir, car aujourd'hui j'ai vu bien les noms, il n'y avait pas ton nom, sauf si tu as écrit avec un autre pseudo. Et comme ça, Ortifilla, je ne sais pas s'il y a cela. Ou bien, je crois que je t'ai répondu, ça fait au moins un mois. Attends, je vais voir ici dans le cahier. Je crois que tu es le genre où j'ai répondu quand j'ai répondu les premières fois. Attends, Aladdin, tu peux prendre le micro, je t'enlève la khara si tu veux prendre le micro. Pour là, je reviendrai inshallah ta'ala à l'email pour voir les noms. Alaykoum salam, pour le rappel, pouvez-vous nous expliquer comment les personnes n'ayant pas eu le privilège d'avoir des mains ou les ayant perdu pour X raisons peuvent faire le taïmoum ou le wudu? Pouvez-vous nous expliquer comment les personnes n'ayant pas eu d'avoir des mains ou les ayant perdu pour X raisons peuvent faire le taïmoum? Quand quelqu'un par exemple n'a pas les mains, quand il y a quelqu'un avec lui, si ce quelqu'un peut lui faire le wudu, il lui fait le wudu. S'il ne peut pas, c'est difficile, etc., il peut lui faire le taïmoum. C'est lui qui lui prend, il met ses mains sur la terre ou le caillou, ensuite il lui frotte, puisqu'il n'a pas de main, il lui frotte le visage. Et les deux mains, ici tombent. Quand il n'a pas les deux mains tombent. Il lui reste quoi? Il lui reste seulement le visage. Il lui met un peu de la terre sur le visage. Il lui fait le taïmoum sur son visage, c'est tout. Mais s'il peut faire le wodo, il lui fait le wodo c'est mieux. Mais s'il peut pas, il dit c'est difficile. Ou là, l'autre il dit moi c'est difficile pour moi. L'obligation est levée pour les mains. Khlas, les mains, elles sont tombées. Elles ne rentrent plus dans le taïmoum. C'est pour ça que je vous donne un avantage ici. Par exemple, quand on va au Hajj, quand on termine le Hajj, qu'est-ce qu'on doit faire? L'Omra. On termine la Omra d'abord, ensuite on va. Quand on termine la Omra, qu'est-ce qu'on fait? On termine par, on se rase les cheveux, ou bien on en enlève un peu. Et la femme, elle prend comme ça par derrière, et elle enlève juste comme un doigt ou moins. Even. Maintenant, un homme qui n'a pas de cheveux, il est chauve. Quelqu'un qui est chauve. Qu'est-ce qu'on doit faire? Certains disent, et ce n'est pas vrai, certains disent, puisqu'il n'a pas de cheveux, au moins, on prend comme ça le rasoir, on le fait passer par-dessus la tête, c'est comme Yanné, avec l'intention, comme s'il avait les cheveux, on fait passer le rasoir comme ça dans le vide, sur sa tête. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, non, ça c'est pas vrai. Les cheveux, il n'en a pas, place, l'obligation de la tête est tombée. Il n'y a plus d'obligation pour la tête. La même chose ici. La main est partie, on n'a plus, on ne va pas autre chose à la place de la main. C'est comme par exemple, certains vont te dire par exemple le teshehod. Le teshehod. Quand je fais la prière, je fais le teshehod normalement avec la main droite. Ça, tahiyatullah, zakiyatullah. Maintenant, mes doigts ont été coupés de la main droite. Donc je vais faire le teshehod avec la main gauche. Ils ont dit non. Le teshehod, on le fait seulement avec la droite. Si on n'a pas la droite, l'obligation est levée. Incha'Allahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa fika barakallah. Est-ce qu'il y a une question pour une sœur? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est saut? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam, est-ce que Ala ad-Din, est-ce qu'il a écouté tout ce que j'ai dit? Est-ce que je suis arrivé au doigt quand on perd un doigt dans le tashahhud? Est-ce que je suis arrivé à ce point? Vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé? Khalas. Alhamdulillah. Donc, est-ce qu'il y a une sœur qui a une question? Après Ala ad-Din. Et si c'est urgent, pose là, Inch'Allah. Pose là, Inch'Allah, puisque c'est urgent. À moins qu'elle veuille dire elle est en privé ou quoi. Naam, salam alaikum. J'ai une question de Taymiya qui avait la main levée pendant moi et qui a dû sortir du salon. Alors, je vous la colle. Taymiya, salam alaikum. Monsieur vient de perdre sa maman dans un accident. Rahimahullah. Cette femme musulmane avait un compte en banque. Et comme dans toutes les banques, il y a des intérêts. Ce qui représente ce jour environ 2000 euros pour le compte qu'elle a et qui est bloqué. Non, ma question n'est pas encore terminée, ça. Ça a bloqué sa sœur. Elle a demandé si elle doit donner des intérêts à sa place de la mère car elle avait la niya de le faire. Et si oui, quand elle doit le faire, elle se demande s'il faut que ça soit fait avant, qu'elle soit enterrée, donc avant qu'on fasse la salate sur elle. Donc, il est enterré à la porte de sa mère. Naam, enfin, à qui peut-être donner cet argent? Je vais demander ma question à moi, je dois faire taïmoum, car le médecin m'a dit de ne pas mouiller, alors quand je me mouille sans que... Ça ne me fait pas mal. Moi, je suis ici en faire le wudu. Non. En ce qui concerne la première question, en fait, le fait que quelqu'un meurt et il a placé son argent dans une banque de riba, le fait qu'il soit mort, lui, et quand on retire nous l'argent avant ou après la salat, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que c'était lui qui devait sortir. C'est lui qui devait sortir son argent avant de mourir. C'est lui qui devait sortir. Naam, c'est lui qui devait se sauver de l'enfer quand il était vivant. Il devait faire sortir cela et faire le repentir. C'est lui qui devait le faire. C'est pour ça que maintenant, quand tu vas le sortir, toi, elle n'est pas là. Elle devait être présente pour avoir une intention dans son cœur qu'elle doit faire sortir l'argent en la cause d'Allah pour avoir le hajj et ne pas avoir le péché. Ça, et maintenant, elle n'est pas avec nous. Maintenant, on va le sortir avant la prière ou après. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Essentiel, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Maintenant, les intérêts à nous, l'argent que tu sors, bien sûr, c'est pas tout son argent qui est haram. C'est les intérêts qui sont haram. Il y a le halal, l'argent qu'elle a posé, elle, son halal, et il y a les intérêts qui sont le haram. C'est pas tout l'argent de la banque que je vais lui donner. Je prends les intérêts et tu les donnes à n'importe qui est nécessiteux. N'importe qui. Auparavant, les ulama disaient, on le donnait aux hôpitaux, on le donnait pour construire des écoles, pour, les choses qui, dont on a, les gens ont besoin. On construit des puits, des ponts. Maintenant, les ulamas, Cheikh Ibn Uthaymeen et les autres, ont dit, ah, là, c'est un peu d'aïf. Tu peux donner à tout le monde. quiconque tu sais qu'il est nécessiteux, il a besoin d'argent, tu lui donnes. Tu lui donnes de cet argent. Au point où, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même un kafir, si un kafir nous donne de l'argent pour construire une mosquée, je prends son argent. Lui, il a le péché de l'argent, moi j'ai l'avantage de construire une mosquée. En ce qui concerne le taïmoum, le médecin m'a dit, ne pas mouiller, alors je me mouille, ça me fait pas mal. Si tu te mouilles et tu sens que tu n'as pas mal, tu fais inshallah le wudu. Tu fais le wudu jusqu'au moment où tu sens que tu as mal. Si tu sens que tu as mal, ça veut dire le médecin là, il a dit vrai, il ne s'est pas trompé. Des fois le médecin, il exagère. Des fois le médecin, il n'est pas musulman, il ne connaît pas ces choses. Il croit que là, un peu d'eau, ça va faire mal. C'est pour ça que, toi tu fais le wudu inshallah ta'ala, mais si tu sens que tu commences à avoir mal, les jours où tu sens que tu as mal, tu fais le taïmoum. Les jours où tu sens que tu es bien, il n'y a pas de mouchkila, tu fais le wudu inshallah ta'ala. والله تعالى أعلم. عبد الغني تفضل. Est-ce que les oreilles font partie de la tête et la nuque dans le taïmoum et doit-on laver le dessus et le dessus des mains? Abdelghani, barakallahu fik, Abdelghani, regarde ce que tu as dit. Tu as dit, est-ce que les oreilles font partie de la tête et la nuque dans le taïmoum? Dans le taïmoum, on fait seulement le visage. De haut, du début du front jusqu'à le menton, et ensuite jusqu'aux oreilles. On rentre pas les oreilles dans le taïmoum. Ensuite, tu as dit, et doit-on laver le dessus et dessous des mains? Tu veux dire, doit-on essuyer ou la doit-on laver? Elle mouchkila là. Doit-on essuyer ou la doit-on laver? Barakallahu fik, réponds-moi. Parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. On doit essuyer dessus et dessous. Les pommes, ensuite dessus, par-dessus. Mais le fourre met le tête, jusqu'au poignet. Mais là, nous khalil l'asaber. C'est pas la peine d'ouvrir les mains et de rentrer les doigts dans les doigts. Hein? Les doigts dans les doigts, c'est pas la peine. Tu fais seulement comme ça les deux mains, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Non, allez, Fikabarak, le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, parce que c'est une rukhsa, c'est une permission. Et la permission, rukhsa, mabnaha al-tisir. Rukhsa, mabnaha al-tisir. Quand l'Azza wa Jal donne une permission, il la facilite. C'est pas la peine. J'ai vu certains, ils commencent à tirer, ils font le taïmoum. Là, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils font le taïmoum à chaque doigt. Chaque doigt, ils le tirent comme ça. Ensuite, ils tirent le deuxième, ils tirent le troisième, ils tirent le quatrième, ils tirent le pouce. Il va à l'autre pouce, il le tire. Il fait le taïmoum à chaque doigt. Ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est une bida. Est-ce qu'il y a une sœur qui a une question? Inch'Allah Ta'ala, Jazakallahu Khairan. Inch'Allah Ta'ala. Non. Ceux qui ont des choses, qui m'envoient des choses en privé, moi, la plupart du temps, je réponds dans la salle, car je n'ai pas beaucoup de temps. Si quelqu'un a une chose qu'il veut pas que je lui réponde devant les gens, quand il m'écrit les mails, il écrit secret. Quand je vois le mot secret, ça veut dire je dis pas son nom. Les gens en général, je préfère ne pas dire les noms en général. Et qui n'est pas en rapport avec le DAS. Attends un peu, on va voir le ministère, peut-être qu'il a quelque chose avec le DAS. Très mal le ministère. Ministère, J'ai répondu, ça fait 5 minutes. Où étais-tu, Barakallahu fik? Non, ça fait pas 5 minutes. Ça fait au début du cours. Au début du cours, j'ai répondu. Si celui-là, il va faire la formation, Ah, Jazakallahu khair, nam. Sauf si celui-là, tu sais, quand on fait la pâtisserie, dans certaines pâtisseries, on doit leur mettre de l'alcool, on doit leur mettre, comment ça s'appelle avec l'alcool? Le whisky, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit leur mettre à l'intérieur. Femme, j'ai oublié comment ça s'appelle. Celui-là, il n'est pas permis. Maintenant, s'il va, il dit que celui-là, s'il va faire une formation, mais il touche pas les liqueurs, il touche pas, il laisse eux, ils font, lui il touche pas, il regarde seulement. Ensuite, quand il termine la formation, il ne met pas de liqueur, bien sûr, ça Inch'Allah Ta'ala il peut. Mais si on lui dit tu prends les liqueurs et tu mets ici, etc., Inch'Allah Ta'ala ce n'est pas permis. Pose la question très vite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mouad, quand il l'a rencontré, il lui a dit au prophète, je me suis marié sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, tu es marié avec qui, quel genre de femme? Il a dit une femme qui était déjà mariée. Il était marié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi ne t'es-tu pas marié avec une vierge? C'est-à-dire tu joues avec elle, etc., tu plaisantes, etc. Qu'est-ce qu'il a dit Mouad ibn Jabal? Mouad, nam. Il a dit, mon père est mort et ma mère. Ils m'ont laissé avec 7 enfants ou 9. Ils sont tous petits. J'ai pensé à ne pas leur ramener une fille, une femme vierge, jeune, de 16 ans, 18 ans, qui ne connaît rien. Elle ne peut rien faire avec mes frères et mes soeurs. Le prophète Aslam ibn Hajr a dit dans Fath al-Bari, il a dit, je crois qu'il lui a dit, Barakallahu fik ou quelque chose comme ça. Donc, les ulama ont pris de cela, quand tu te maries avec une femme, de préférence avec une vierge. Mais si il y a une femme qui est déjà mariée et qui, elle a beaucoup d'expérience, et toi tu es déjà marié, tu as des enfants, etc., celle-là qui a beaucoup d'expérience, elle peut des fois être mieux que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, elle est jeune, elle connaît rien, et elle a beaucoup de... Tu sais que la jeune, elle a beaucoup de, comment on dit, de conditions, etc. Elle n'est pas facile comme l'autre. Ensuite, les ulama ont pris de ce hadith que il est permis à la femme de laver et de s'occuper des parents de la femme ou bien de la famille de l'époux. Car Mouad, ici, quand il a dit j'ai 7 frères ou la 9 et je me suis marié à cause d'eux, des enfants de mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit non. Pourquoi? La femme n'a pas le droit de venir leur laver leurs vêtements, etc. Mais il a dit, ça ne fait rien, tu as fait quelque chose de bien. Donc la femme, si elle veut, bien sûr, ce n'est pas obligé, si elle veut, elle peut laver les vêtements du frère de l'homme ou de ses parents, ou là, elle peut, elle n'est pas obligée. Mais seulement, elle peut, des frères du mari, etc., et ce n'est pas obligé. Mais en général, si quelqu'un se marie avec une vierge, c'est mieux. Mais ça ne veut pas dire que l'autre, je veux dire en général, la vierge est mieux, mais ça dépend. Il y a des fois, d'autres elles sont mieux, ça dépend. Ça revient à chaque personne, et à son goût, à chaque personne, et à son goût. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mouad, si c'était une vierge, tu aurais joué avec elle, elle aurait joué avec toi, etc. Wallahu ta'ala a'lam. S'il y a une sœur, tafadhal. Fika barakallah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a la question d'une sœur sur la hijra? Attends un peu, Inch'Allah, attends. Abou Ahmed, tafadhal. Abou Ahmed, j'ai répondu à la question, il me semble que tu étais dans la mosquée, Inch'Allah ta'ala. J'ai dit que la circoncision, non, la circoncision, on regarde le médecin s'il sait la faire. Ça a sûrement quelles conditions. Il faut qu'il sache quelle est la chose qu'il enlève, quelle est la chose qu'il ne doit pas enlever, etc. Ça n'a rien à voir avec, il faut qu'il soit musulman ou pas musulman. Enfin, ça n'a rien, c'est de la médecine. C'est de la médecine. Au point où Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah a dit, écoutez bien ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin ici. Écoutez, hein. Il a dit, quand tu vas, si tu vas par exemple chez un médecin, tu vas chez un médecin, il te dit, toi, par exemple, tu ne peux pas employer de l'eau. Il faut que tu fasses le taïmoum. Par exemple, c'est un musulman. Ensuite, tu vas chez un médecin qui est plus savant que celui-là. C'est un spécialiste. L'autre, c'était un généraliste musulman. Tu vas chez un spécialiste qui est kafir. C'est un spécialiste en médecine. Dans la même question, il va te dire, toi, par exemple, tu fais le contraire. Si le premier t'a dit, tu peux pas employer l'eau, celui-là, il te dit, tu peux employer l'eau. Ou bien, il te dit, tu peux pas employer. Il te dit le contraire du premier. Il a dit, tu prends avec le kafir, tu prends pas l'avis du musulman. Tu prends l'avis du kafir, tu prends pas l'avis du musulman. Pourquoi? Parce que ici, kofre et islam n'a rien à voir. Ici, c'est une question de spécialité. Celui-là, c'est un spécialiste en médecine. Celui-là, c'est seulement miskin, un généraliste. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, tu prends l'avis du spécialiste, même s'il est kafir. Maintenant, la circoncision, tu vois, s'il connaît ou il ne connaît pas, c'est tout. Si c'est l'affaire, c'est un musulman croyant, ça n'a rien à voir avec cela. Deuxièmement, si salat son bâtel, là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il ne fait pas, si quelqu'un se convertit, il ne fait pas la circoncision, ça veut dire tout seulement qu'il a un péché. Il a un péché pour ne pas s'être circoncis. C'est tout. Mais sa salat est juste, Inch'Allah ta'ala, seulement quand il fait les ablutions, quand il urine, etc., il doit bien se laver. Il doit bien se laver, car pourquoi on fait la circoncision? Pour permettre, pour qu'il n'y ait pas de l'urine, etc., qui reste à l'intérieur sous la peau. Sous la peau. C'est pour ça que les musulmans doivent faire la circoncision pour être plus propre, pour que rien ne se cache sous la peau. Mais sa salat, Inch'Allah ta'ala, est sahiha, et elle n'a rien à voir avec cela, mais il a fait un péché, il a fait un péché. Wallahu ta'ala a'lam.
Hijab 93, tafadhal.
Peut-être ça a rapport avec la khot. Après hijab, tu poses la question de la sœur sur la hijra, Inch'Allah. Hijab est descendu. Non, hijab est descendu. Pose la question sur la hijra, Inch'Allah ta'ala. C'est quoi la question? Sirin 27. Il y avait déjà une sœur qui s'appelait Oum Sirin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makhiratou. Comme beaucoup de frères et sœurs, mon mari et moi aimerait faire la hijra, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Mais ma belle-mère se retrouve seule. Elle a seulement ses parents et ses frères et sœurs. Pouvons-nous quand même partir si la mère de mon mari est seule et sans autre fils près d'elle? Salam alaikum. C'est une autre question. Je voudrais savoir, est-ce que j'ai compris que la belle-mère ne veut pas faire la hijra? C'est comme ça que j'ai compris. La belle-mère va rester dans ce pays et ne pas faire la hijra. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que j'ai bien compris? vous me répondez, barakallahu fikum. Le temps que je lis ce qu'a dit Hijab. Walaykum salam wa rahmatullah. Ceci se passe dans un aéroport, se trouve une salle pour la mosquée, une salle pour une synagogue et une pour l'église. Je voudrais savoir si la prière est valide si une femme prie à l'arrière d'une mosquée alors qu'un homme prie tout devant dans la mosquée. Est-ce qu'il a le droit de prier dans la synagogue ou dans l'église sachant qu'il n'y a personne dedans de votre père? Non. En ce qui concerne la prière de la femme, est-ce qu'elle peut faire la prière dans une mosquée et que l'homme, un homme, prie devant dans la mosquée, est-ce qu'elle, elle doit prier derrière? Si j'ai compris, Yanni, ils sont les deux dans la même mosquée. L'homme devant et elle derrière, je crois. Laissez-moi relire, barakallahu. Je voudrais savoir la prière si une femme prie à l'arrière d'une mosquée, alors qu'un homme prie tout devant ou dans l'église. Tout devant, dans la même mosquée. Non. En ce qui concerne la prière dans une même mosquée, il faut pas qu'il soit en khalwa. Il faut pas qu'il soit khalwa. Khalwa, ça veut dire il n'y a qu'elle et lui. S'ils sont seulement les deux, ils peuvent pas. Pourquoi ils sont dans la khalwa? Il faut qu'il y ait un troisième avec eux. Il faut qu'il y ait un troisième. Ou bien qu'il y ait quelque chose qui cache entre l'homme et la femme. Elle cache, par exemple, il y a un drap ou là, il y a quelque chose comme ça. Ou bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend que l'homme sorte, et elle fait la prière, ou bien elle fait rentrer quelqu'un avec elle. C'est très facile. La plupart du temps, une femme n'est pas seule, il n'est pas seul à l'aéroport. Elle va pas faire le voyage seule. Elle fait rentrer n'importe qui fait pas la prière. Elle lui dit, tu restes là debout une seconde, le temps que je fasse la prière, pour que je ne sois pas seul, moi et lui. C'est tout. Elle fait rentrer quelqu'un, même si quelqu'un qui ne prie pas. Il reste debout comme ça. Le temps qu'elle fasse la prière, c'est tout, inshallah ta'ala. La prière est permise dans l'église. La prière est permise dans l'église quand il n'y a pas de statut. Omar ibn Khattab l'a fait dans l'église, ils ont dit s'il n'y a pas de statut. Mais, de nos jours bien sûr, peut-être si quelqu'un l'a fait dans l'église, il va avoir des problèmes. Premièrement, les gens qui n'ont pas vu ce qu'il faisait, ils n'ont pas vu qu'il faisait la prière. Quand ils le voient sortir seulement, ils disent que celui-là c'est un chrétien. Et ça va beaucoup marcher, le kalam va marcher, toi tu ne sais pas. Ensuite il y a 5 qui vont savoir, 10, 15, 30, 50. Les synagogues, je n'ai jamais entendu les ulama parler de cela. Ils ont parlé de l'église. Ils ont parlé de l'église, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, c'était quoi d'abord la question? Pardon. Naam, et de toute façon le temps est terminé. Je réponds à la dernière question. Ma belle-mère est non musulmane. Ah, ma belle-mère est non musulmane. Ah, je comprends bien. Ma belle-mère est non musulmane. Naam. Son fils, qui est musulman, et sa femme peuvent faire la hijra. Naam, peuvent faire la hijra. Seulement lui, qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il vient voir sa mère. De temps en temps, une fois par 3 mois, une fois par ceci, il vient quoi? Il vient pour rendre visite à sa mère. Il ne peut pas partir le temps où elle est par exemple mourante. Elle est très malade, celui-là, il l'attend le temps qu'elle guérisse. Parce qu'elle est très malade, on doit rester avec quelqu'un qui est très malade, si c'est notre père ou notre mère, même s'il est un kafir. On doit lui assister, porter secours. Dès qu'on voit qu'il se sent bien, etc., on part à la hijra. Et de toute façon, même si on part à la hijra, on peut venir rester avec sa mère un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'au temps qu'elle guérisse. L'essentiel, je n'habite plus ici. J'ai fait la hijra, khlas, je suis là-bas. C'est pour ça qu'on peut ensuite prendre 3 et 4 mois et venir rester avec sa mère jusqu'à, inshallah ta'ala, qu'elle guérisse. Ici, nous éprouvons des conflits dans les mosquées. Des frères souhaitent créer une mosquée. Est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé de faire une mosquée, mais est-ce que les autorités acceptent? Est-ce que les autorités acceptent? Si les autorités acceptent, pourquoi ne pas faire une mosquée? On peut construire une mosquée où il y aura la sunna, etc. Surtout si vous êtes dans une mosquée où il y a beaucoup de mashakil à cause des sectes. S'il y a beaucoup de mashakil à cause des sectes, inshallah ta'ala, on cherche une mosquée où il y a, inshallah ta'ala, il y a la compréhension, il y a la sunna, etc. Maintenant, j'ai terminé. Il est déjà Le temps est déjà passé. Nam.
Il me fait ce dossier de 1 milliard de la semaine.
Remercions encore pour tout ce qui est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair, Ousma. Ochtifila, jazakallahu khair. Je sais que j'ai quelque chose à dire sur moi. Ousma, ils savent pas que c'est toi. Cheikh, ils savent pas que c'est toi. J'ai parlé en général. De toute façon, ce n'est pas grave, Inch'Allah ta'ala. Femme, c'est pas grave, Inch'Allah ta'ala. Mes frères et mes sœurs auxquels j'ai pas répondu, vous m'excusez. Vous m'écrivrez direct sur les mails, ibntimiyahotmail.com, et je commencerai par vos réponses demain, Inch'Allah ta'ala. Demain, je commencerai par vos réponses, Inch'Allah ta'ala. Vous m'écrivez à cette adresse. Parce que j'ai des choses à faire. Normalement, c'est les sœurs qui auraient écrit direct mon adresse pour ne pas la répéter à chaque fois. Je me suis trompé, au lieu d'écrire Ibn Taymiyyah, j'ai écrit Ibn Hotmail. Ibn Hotmail, ça n'existe pas d'Ibn Hotmail. Ibn Taymiyyah. Naam, jazakallahu khayran, akhuna Abu Anas, jazakallahu khayran. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon, j'arrête une seconde parce que je vois qu'il y a seulement 4. 1, 2, 3, 4. Je vais répondre très vite, Inch'Allah. Ilyes 77, tafadval. Ilyes 1977. Tafadval vite, barakallahu fi. Fitrif, muslim, Abu Tissah ou Omar Ihana. On se suffit, Inch'Allah ta'ala, c'est 4. Hein? Tafadval. Oum Rihana, pose ta question à la sœur, Inch'Allah. Pose ta question à la sœur. Est-ce que si on prie derrière un mahram et qu'il se trompe dans la récitation dans un verset, a-t-on le droit de le corriger à voix haute, en sachant que c'est une femme qui le corrige, Baraklovit? Est-ce que si on prie derrière un mahram qui se trompe dans la récitation dans un verset, a-t-on le droit de le corriger à voix haute en sachant que c'est une femme qui le corrige? Oumreihana, je ne connais pas la réponse. Oumreihana, je ne connais pas la réponse. Inch'Allah ta'ala, laisse-moi écrire ici pour chercher, Inch'Allah ta'ala. Oumreihana. Non, c'est vrai, c'est à cause du mahram, parce que des femmes doivent frapper des mains. Et maintenant que c'est un mahram, est-ce qu'elle peut répondre? Inch'Allah ta'ala, je vais te chercher. Je te répondrai, Inch'Allah, dès que j'aurai la réponse. Demain, après-demain, Inch'Allah, peut-être demain, Inch'Allah ta'ala. Ilyes, ta fadbal. Ilyes 90, ta fadbal. Est-ce vrai qu'il faut refaire le taïmoum à chaque prière? Non, ce n'est pas vrai, Ilyes. Tu fais une fois le taïmoum et tu fais toutes les prières avec, jusqu'à ce que tu ailles aux toilettes où là il y a des gaz qui sortent ou là. Sinon, tu fais le taïmoum, tu peux le faire le matin, et si tu ne dors pas par exemple, tu fais Zohar, Asr, Maghrib, Isha, avec toutes les nafilas. Avec toutes les nafilas, Inch'Allah ta'ala. Lif muslim, tafadval. كيكا بارك الله. demain ان شاء الله تعالى اخت ام سكينه demain ان شاء الله تعالى le درس sera sur la aqida. demain ان شاء الله تعالى le درس sera sur la aqida بإذن الله سبحانه وتعالى. ريف مسلم جوتاتون بارك الله فيك. أبو تساح تفضل. أبو تساح تفضل. Naam, je veux marier avec une deuxième femme, mais ma femme ne veut pas. Attends une seconde, je commence avec le premier. Que dois-je faire et suis-je obligé de lui dire? En ce qui concerne la deuxième partie du soual, suis-je obligé de lui dire? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de lui dire, car la règle dit, man la yuhtaj idhnuh, la yuhtaj ilmah. Quand quelqu'un, on n'a pas besoin de son consentement, on n'a pas besoin de le lui faire apprendre. C'est comme ça que dit la règle. Si demain, par exemple, j'ai envie, par exemple, de divorcer ma femme, j'ai pas envie de son consentement. Ça, la même chose, ils disent, dans ce sens, elle n'est pas obligée de savoir que tu t'es marié une deuxième femme. Mais je veux seulement te dire que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes. Car ce n'est pas facile de se marier. Il y a bien sûr des milliers de gens qui sont mariés en cachette. Mais regarde-toi et Annie, calcule bien les problèmes. Est-ce que tu vas rentrer dans de grands problèmes ou est-ce que tu ne vas pas rentrer? Fais la prière de la consultation et mets-toi dans la tête que, par exemple, si jamais elle va savoir, qu'est-ce qui va se passer? Si elle veut savoir, réfléchis bien. Et la meilleure des choses, c'est la prière de la consultation. Fais la prière de la consultation. Et je sais que la plupart des femmes n'aiment pas que leur mari se marie. La plupart des femmes sont très rares celles qui acceptent que leur mari se marie. C'est pour ça que en islam, il n'est pas interdit de te marier sans qu'elle sache. Mais attention, les problèmes, c'est pas moi, inshallah ta'ala, qui vais les engendrer. Choufunta, comment ça va se passer? Et étudie bien le cas et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et t'éclaircir. Salam alaikum. Percevoir les allocations de chômage tout en travaillant en noir, sans être déclaré à l'État, tout en voulant être déclaré, mais le patron ne veut pas aider, ça coûte cher. Sommes-nous dans le haram? Naam. Salam alaikum. Percevoir les allocations de chômage tout en travaillant en noir. Bien sûr, quand on travaille en noir, on touche des allocations, c'est haram. Parce que les allocations, ils te le donnent à cause de tu travailles pas. Donc si tu travailles, ça veut dire que c'est à peu près une question de trahison. Tu as trahi l'autre. Il t'a dit, ne travaille pas, je te donne de l'argent. Toi, Yannick, tu as cassé le pacte avec lui et tu es allé travailler sans qu'il sache. Mais maintenant, la mouchkila, tu as dit, nous voulons être déclarés. Mais le patron ne veut pas, il dit que ça coûte cher. Sommes-nous dans le haram? Il a dit, la fin de la question a dit, je dois la chercher, inshallah ta'ala. La fin de la question, je dois la chercher, inshallah ta'ala, pour te répondre, inshallah ta'ala. On se rencontrera, inshallah, demain pour le dars la aqida. Et toi, akhi Abou Tsah, je te répondrai, inshallah ta'ala. Non, Arif Muslim, je te répondrai, inshallah ta'ala, dès que j'aurai la question. Jusqu'à demain, inshallah ta'ala. Subhanak lahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.